que être esclave de l'argent. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je veux dire, on est toujours pris en fait entre l'intérêt de l'argent, parce qu'on a besoin de l'argent, on est gestionnaire en fait de l'argent qui appartient à Dieu. On est gestionnaire, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent qu'il nous donne, quoi. Je veux dire, donc il faut s'intéresser à l'argent, mais d'un autre côté, je veux dire, il ne faut pas tomber dans le piège comme quoi c'est l'argent qui nous gouverne. Et donc, pendant un moment, on est tiraillé un peu par ces impressions de chrétiens qui nous apprennent en fait la pauvreté ou ce genre d'humilité, tout ça, et les bénédictions que l'on peut recevoir en donnant par exemple la dîme, tout ça, quoi. Enfin, je ne veux pas dire que c'est mathématique, que Dieu fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que je veux dire, je pense que la dîme contribue fortement à l'évolution enfin, au point de vue personnel ou au point de vue entreprise, quoi. Tu veux que je rajoute quelque chose? Non, ça va?
C'est sympa, merci beaucoup. Non, c'est excellent. Est-ce que ça va? Il a parlé pour. C'est le porte-parole. D'accord. C'est chez nous aussi, dans notre couple. Je suis le porte-parole et j'ai toujours le dernier mot. Et le dernier mot, c'est oui, chérie. Merci, Claude. OK. Donc, nous avons beaucoup, 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 beaucoup de témoignages des milliers du monde entier de la part de gens qui ont plongé dans l'enseignement sur les finances. Et d'ailleurs, je vous félicite, là, on est combien? On est plus de 25, non? C'est sensationnel. Vraiment, félicitations d'être venu. Tous ceux qui ne sont pas intéressés à cet enseignement sur les finances sont en quelque sorte tombés dans le piège du diable qui leur fait croire comme quoi ce n'est pas important et que même que ce n'est pas biblique. Et c'est complètement faux, totalement faux. Vous allez voir lors de cette présentation combien les finances ont une importance aux yeux de Dieu. De connaître le fonctionnement de l'ennemi, mais de connaître aussi le fonctionnement de l'argent et de savoir quelle bénédiction avec l'argent est possible. Parce que si vous n'avez pas d'argent, je l'ai dit hier, il vaut mieux être un chrétien, je dirais, qui a les finances en ordre, qui a même un surplus, donc qui est dans la bénédiction ou dans la prospérité, qu'un chrétien fauché, endetté, qui ne donne pas trop envie à d'autres de sortir de cette situation. Et quand moi j'étais au plus bas quand j'ai tout perdu et ma fortune et tout, et puis les banques me réclamaient des montants phénoménaux, c'était injuste, mais bon, toujours est-il. Il y a un homme d'affaires que je connaissais m'a dit, mais où est ton Dieu? Où est ton Jésus? Et j'ai dit, écoute, j'ai dit, cher ami, je n'avais pas besoin de Jésus pour me mettre dans cette situation, j'ai réussi tout seul. Mais lui, il va maintenant m'aider et tu verras bien. Et il a vu. Il a vu. D'ailleurs, il est pas en bonne forme physiquement du point de vue santé, etc. Mais l'autre jour, il a dit à un de mes frères, donc de famille, comment va Courte? Il a dit, oh, il va extrêmement bien. Puis mon frère m'a dit, mais lui, il va pas bien du tout. Mais il a beaucoup d'argent, puis il s'est moqué de Dieu. Et puis moi, j'ai vécu les bénédictions une après l'autre. Alors, nous avons les finances publiques. La première partie, aujourd'hui, ça va être assez chargé. Ce que vous entendez aujourd'hui va vous donner, je dirais, une base. Et quand vous travaillez après avec ce classeur, cet excellent classeur que vous allez recevoir, qui contient 12 thèmes sur 300 pages. C'est un document qui contient trois livres qui ont été traduits de l'anglais. C'est trois personnes très, très, très compétentes. Donc, un est Howard Titan, un très bon ami, l'autre est Larry Burkett, feu Larry Barker qui était exemplaire, qui a décédé, et Ron Blue. Et ce sont des hommes de Dieu qui ont développé cet enseignement biblique sur les finances. Après, il y avait Earl Pitt, que Dieu a associé, qui a écrit le livre « Bien richesse et argent ». Alors, cette base, après, va vous permettre d'aller plus loin. Nous avons l'importance de l'enseignement des finances publiques. Je vais vous montrer là, avec la Bible à l'appui. Jésus comme enseignant, le plan de Dieu pour l'homme, quel est le plan de Satan, quelles solutions se présentent, comment entrer dans les solutions. On a déjà dit hier qu'il y a environ 200 versets en relation avec la foi, 200 en relation avec le salut et 2350 en relation avec bien, richesse et argent. Et pourtant, même s'il y a presque 12 fois plus de versets en relation avec les finances, il y a très, très peu d'églises qui sont vraiment intéressées. Et les méga-églises entre peu et pas du tout. Mais par contre, le pompe et le pognon, aucun problème. Et c'est dommage parce que si vous avez une église qui est prospère, à ce moment-là, vous avez les finances qui coulent et puis que les membres de l'église deviennent des exemples qui font envie à d'autres et qui peuvent témoigner. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Tout est possible avec lui. Et c'est ça qui est magnifique, et Dieu soit loué, c'est que Lise et moi, nous avons vécu des très grandes catastrophes. Lise va témoigner demain. Et d'ailleurs, nous l'avons écrit dans le livre là, qui s'appelle « Notre histoire ». Et donc, grâce à ce vécu, à ces terribles expériences, terribles avec le monde, mais magnifiques en relation avec Dieu, nous pouvons aujourd'hui vraiment dire Dieu est un Dieu qui est fidèle et est un Dieu qui n'a jamais laissé tomber un de ses enfants. Si vous regardez ici Jésus et le monde des affaires, sur 132 apparitions publiques de Jésus, il y avait 122 qui étaient en relation avec le monde des affaires. Ah oui, quand vous voyez ça. D'ailleurs, vous pouvez lire dans la Bible, Jésus n'a pas passé beaucoup de temps avec les pharisiens. C'est eux qui lui suivaient pour le surveiller, le critiquer. Mais lui, les pharisiens, il ne les a pas visités. C'est eux qui l'ont visité, comme Nicodème qui est venu le visiter la nuit. Mais il a passé beaucoup de temps avec des gens du monde, des femmes et hommes d'affaires, aussi prostituées, pêcheurs, tricheurs. Et 45, sur un total de 52 paraboles, étaient de nouveau en relation avec le monde des affaires. Et 39 sur 40 interventions divines dans les actes sont de nouveau en relation avec le monde des affaires. Et Jésus a passé plus de 50% de la durée de sa vie sur la terre, dans le monde des affaires, en tant que charpentier avec son papa. Parce qu'il a commencé à 30 ans, alors ça veut dire depuis 15 ans jusqu'à 30 ans, il travaillait comme charpentier, ou peut-être depuis 13 ans déjà. Les 12 disciples venaient tous du monde des affaires. Il n'y avait pas un seul pharisien, parce que s'il y avait un pharisien, il n'aurait jamais pu accomplir ce qu'il a accompli parce qu'il aurait été non-stop dans des discussions théologiques. Mais il n'avait que des gens qui venaient du monde, même un voleur. Assez intéressant. Oh, vous savez, moi j'ai un problème. Quand j'enseigne les finances, à l'époque on faisait des séminaires de 6 jours. Puis les gens ont dit, 6 jours c'est quand même pas mal. Et quand c'était fini, ils ont dit, tu ne peux pas prévoir de faire ce séminaire sur 10 jours. Il y a tellement de choses à dire. Et quand j'enseigne, il y a toujours des trucs qui me viennent en tête en relation avec les finances, des exemples. Par exemple, quand on dit des disciples et puis de Jésus, on peut, dans la Bible, voir que Jésus, il... Est-ce que non, je vous pose la question, est-ce qu'il était pauvre ou riche? Riche, qui est pour pauvre? Moi, je suis pour pauvre et riche. C'est plus simple, hein, quand on dit les deux. Mais pourquoi j'ai dit pauvre et riche? Mais attention, il était le fils, Jésus est le fils de Dieu, donc il était riche, c'est évident. Mais pourquoi il était pauvre en même temps? Pardon? Oui, et puis pour la prendre, il s'est fait pauvre. Et pourquoi il s'est fait pauvre? Oui, puis quoi encore? Oui, c'est tout ça juste, mais il y a un point essentiel qui me manque. Oui, quel exemple? Là, on s'approche. Ça commence à être chaud. Pour apporter la preuve que l'Évangile n'a pas besoin de pognon pour faire son œuvre. Vous avez pigé? Et quand j'ai dit riche, comment peut-on dire qu'il était riche? Vous savez, je suis déjà fait agresser là-dessus. Oui, non, mais moi, je veux avoir du fact et fact. Oui, ça c'est un, mais bon, ça c'était une pièce, mais je veux beaucoup plus. Il avait de l'argent? Ou est-ce que... Alors voilà. Voilà. Alors là, Raymond, là, c'est bien, chapeau. Mais t'es quand même le pasteur, tu devais maintenant venir avec quelque chose d'intelligent. Oui. Vous voyez, quand il y a la multiplication des pains, juste avant, les disciples disent, « Maître, il y a tous ces gens-là, commencent à faire tard. » Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les renvoie ou est-ce qu'on va acheter du pain pour 200 deniers? C'est dans la Bible. Oui. 200 deniers, c'est quoi? Vous savez ce que ça représente? Aujourd'hui, en euros, combien gagne le salaire moyen par jour en France? Et si je dis 100 euros, vous êtes d'accord? C'est d'accord? Alors, ils ont dit... Oui, 100 euros par jour. En Suisse, c'est 300. Avec 100, vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc, les disciples ont dit à Jésus, Maître, Maître, veux-tu que nous ayons acheté du pain pour 20 000 euros? Ben oui, c'était 200 deniers. Un denier était le salaire journalier, et là, il dit, veux-tu qu'on achète pour 200 deniers? Comment pouvait-il dire, les disciples, est-ce qu'on va acheter pour 20 000 euros du pain s'il n'avait pas? Mais il l'avait, parce qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ça veut dire, Jésus était en même temps riche, mais en même temps il s'est fait pauvre pour apporter la preuve que l'Évangile n'a pas besoin d'argent pour percer, pour faire son œuvre. Mais aussi que Dieu voulait montrer que même quand on s'est fait pauvre, on peut être riche. Vous savez, dans la Bible, il y a des exemples extrêmement intéressants. C'est énorme tout ce qu'il y a dans la Bible en relation avec les finances. Voilà, c'est juste un exemple comme ça en passant qui me vient. Quel est le plan de Dieu? Vous savez, hier on l'a fait, hein, c'est que l'homme, c'est une répétition, était destiné comme gérant, vivre éternellement, donc sans mort physique, et puis il y a la chute de l'homme puisqu'il n'a pas obéi quand Dieu a mis un arbre duquel il ne pouvait pas manger. Et c'était l'arbre de la connaissance, tu. Mais ça, c'est pas très logique, non? Mais, qui a dit ça? Voilà, bravo. C'est pas logique du tout. Parce que si maintenant, je connais pas la différence entre le bien et le mal, je fous une baffe à mon ami ici, et Jean va me dire, mais pourquoi tu m'as baffé? Puis j'ai dit, je sais pas. Je vois pas une différence. Si je te baffe ou si je te baffe pas. Mais la différence, c'est que cet arbre, hein, il représente la connaissance du monde, le know-how du monde, le savoir-faire du monde, et vous voyez jusqu'où il nous a amené ce savoir-faire. Pas très loin, ça veut dire dans beaucoup de difficultés. On va encore en parler. Alors, donc, Dieu devait mettre cet arbre pour nous laisser le choix, parce qu'autrement, nous n'aurions pas été des hommes libres. Parce que Dieu aurait dit, voilà, c'est comme ça, et puis il n'aurait pas mis l'arbre. Mais dans ce cas, on serait tous des marionnettes à la queue-leu-leu au culte, le dimanche, à la queue-leu-leu à la maison. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Il ne voulait pas des robots, il voulait des êtres libres. Et la plus grande liberté est la liberté qu'on nous accorde. Et c'est le plus grand cadeau. Et Dieu devait nous accorder ce cadeau. Et donc, nous pouvons choisir entre le bien et le mal. Nous pouvons choisir de marcher avec Dieu. Nous pouvons choisir d'aller avec le diable. Dieu nous laisse libres. Et donc, cet arbre, d'ailleurs, était dit qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais quelle intelligence? Vous savez, l'intelligence du monde est aussi loin de la sagesse de Dieu comme l'Occident de l'Orient. Combien de gens intelligents je connais? Mais qu'est-ce qu'ils sont stupides? Quand vous discutez avec eux, mon Dieu, j'en ai déjà eu, hein. J'en ai déjà eu qui voulaient me... Oui, qui voulait contredire, et puis moi je m'appuie sur la Bible, parce qu'au moment où vous appuyez sur la Bible, même celui qui ne croit pas, vous pouvez le démonter ses théories. Parce que la Bible est la vérité. Elle est la vérité. Donc l'homme a mangé de ce fruit, de ce fait il a commis un péché, et comme il n'y a pas de péché au paradis, Dieu les a sortis du paradis. Et puis ensuite, il était gentil, il n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit le sol. Il a dit maintenant, dorénavant, il parlait à l'homme déchu, tu travailleras ce sol maudit que j'ai maudit à la sueur de ton front. Et aujourd'hui, j'ai demandé hier qui se réjouit, pas vraiment pour penser à lundi. Vous savez, quand j'avais monté l'entreprise de construction, j'avais monté tout un groupe et j'avais vraiment la belle vie, puis je gagnais. Beaucoup, beaucoup d'argent. Mais moi, je peux vous dire, je ne travaillais jamais le samedi et le dimanche parce que je n'aimais pas ce métier. Et puis le dimanche, je n'avais pas envie, lundi, d'aller au bureau même que j'avais. J'avais aucun problème. J'avais mon grand bureau avec cheminée, avec groupe de fauteuils. J'avais mon propre salle de bain avec closoma, douche et compagnie. Une secrétaire, et puis je venais juste pour faire une apparition, puis après j'allais au golf, mais ce n'était pas mon appel. C'était uniquement pour faire du pognon. Je n'étais pas dans mon appel, et donc j'étais comme un homme déchu qui travaille pour gagner de l'argent. L'homme déchu, lui, il doit travailler à la sueur du front, c'est écrit, et puis les femmes enfantées avec douleur, ce n'était pas prévu non plus. Et l'homme doit passer par la mort physique. Mais gloire à Dieu que Jésus est venu dans ce monde pour nous racheter, pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs. Et nous sommes donc des gérants réinstaurés, appelés à entrer dans l'appel de Dieu, non pas piocher à la sueur du front, parce que tu ne fais plus partie des hommes déchus. Tu es un homme racheté, tu es réinstauré comme gérant de la terre. Et de ce fait, tu ne dois pas piocher à la sueur du front. D'ailleurs, tous ceux qui font... Est-ce que, ici, qui fait après le cours, hein, avec le dossier, là, les 12 thèmes, à tous, hein? Mais si vous voulez cette présentation, Luc, où est Luc? Là-bas, je peux te la filer, puis tu peux si vous intéressez, je peux vous la donner. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout noter. Vous pouvez la regarder tranquillement à la maison, au lieu de regarder la télévision. Hein? Voilà. Exact, tu as raison. Nous, on regarde encore les escapades de Petit Renaud. Mais c'est excellent, hein? On aime beaucoup. Alors, voilà. Et donc, tu ne travailles plus, tu ne devrais plus travailler pour gagner de l'argent, donc qui devient un but en soi, mais tu devrais entrer dans l'appel de Dieu, ça veut dire l'appel que Dieu a pour toi, et l'argent devient uniquement le fruit. Est-ce que vous avez compris ça? C'est important. Mais ça, vous savez, ça, la toute grande majorité des enfants de Dieu ne connaissent pas. Et ils piochent comme des hommes déchus. Ils travaillent pour gagner de l'argent afin d'avoir à quoi manger, au lieu d'entrer dans l'appel de Dieu et de faire ce que Dieu demande, et que l'argent devient le fruit de leur travail, de leur appel, et que ce qu'ils gagnent sert à quoi donner plus loin selon Éphésiens, au lieu de rester dans le pays du juste assez, entrer dans le pays de l'abondance. Vous savez, c'est des vérités qui sont là, qui sont énormes, mais qui sont méconnues. De ce fait, les enfants de Dieu piochent comme les autres, c'est dommage. Nous devons travailler, attention, nous devons, mais pas n'importe quoi. Et nous avons la vie éternelle qui nous attend. Le plan du diable, ben lui, il envoie Mammon qui dit « tu dépends de lui », et puis Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins. Je me souviens toujours de cet homme qui a perdu son emploi. Il y avait 300 hommes, j'étais l'orateur, et puis j'ai parlé, il y a un homme qui a dit « ben, c'est facile, c'est un peu facile ce que tu dis, etc. » Qu'est-ce que j'aime ça. Je n'ai pas un problème avec la personne, mais je vois le diable qui veut. Et après, qu'est-ce que j'aime ça? Après de le plaquer contre le mur, de le mettre en miettes et puis de lui rouler dessus. Mais il faut juste faire attention qu'on n'ait pas cette agressivité envers la personne. Et donc, c'est très, très... Donc, à l'intérieur, spirituellement parlant, j'ai dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais vis-à-vis, envers la personne, j'ai dit, exprime-toi, cher ami et frère, qu'est-ce qui te travaille? Il a dit, oui, qu'est-ce que tu dis de ma situation? J'ai deux enfants, je suis depuis 2 ans au chômage. Et puis ce Dieu là dont tu parles, il est où? Et j'ai dit, écoute, moi je te propose que, il y a deux possibilités. Une proposition, c'est que après cette conférence, c'était donc un week-end d'hommes en Suisse, j'étais suisse-allemand, après la conférence qui va se terminer vers 22h, je propose qu'on se voit à la cafétéria et puis qu'on parle ensemble et on va trouver une issue. Et l'autre, c'est, si tu es téméraire, c'est qu'on traite le cas ici devant tout le monde. On peut traiter ici. J'ai dit, très bien. J'ai dit, écoute, je te pose 2-3 questions. Une première, bon, tu es depuis 2 ans au chômage, lui. J'ai dit, tu es marié? Il a dit oui. J'ai dit, puis tu regardais pour un nouveau travail? Il a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu as prié avec ta femme, unis, ensemble, pour un nouveau job? J'ai dit, plus fort. Non. J'ai dit, plus fort. Non. J'ai dit, c'est pas grave. Ça explique. Point 2. Est-ce que tu t'es rébellé contre Dieu du style, t'es où? Tu fous quoi? Plus fort. Au moins, tu es sincère. Deuxième, oui. Troisième question qui risque de te faire bondir. Est-ce que pendant ce temps, on t'a proposé un travail que tu n'as pas pris pour X raisons ? Oui, mais c'était un travail qui payait moins, puis etc. J'ai dit, mais tu vois, premier point, la Bible dit quand deux se mettent d'accord, Dieu exauce. C'est ma Bible qui le dit, la tienne aussi. Le deuxième, c'est quand tu te rebelles contre Dieu, tu peux prolonger le délai d'attente de 11 jours jusqu'à 40 ans, comme le peuple d'Israël qui, au lieu d'avoir mis, selon Exode, 11 jours depuis le pays de Goshen au pays promis, ils ont mis 40 ans. Et le troisième, c'est que peut-être Dieu voulait que tu passes par une humiliation et que tu acceptes un travail parce qu'il dit dans Psaume 51:19 qu'un sacrifice agréable à Dieu est un cœur humilié ou contrit et un esprit brisé. Et là, il a dit, j'ai compris. Après, il est venu à la cafétéria, il a demandé pardon à l'Éternel, il a versé des larmes. Et une année plus tard, on était près de Zurich avec la police criminelle du canton de Zurich. On était chez un chrétien qui avait des piscines à vendre, mais c'était un énorme parc avec des piscines, trucs. Et là, c'était tous des policiers chrétiens, ils avaient le grand patron avec eux. Je peux juste encore raconter ça, c'est tellement magnifique. Et un de l'organisateur me dit, tu sais, il y a le grand patron qui est venu, parce que quand je lui ai raconté que tu étais multimillionnaire, et puis que tu as, que après du multimillionnaire à la banqueroute, etc., et ça l'a intéressé. C'est bien, mon histoire attire des gens du monde. Ils aiment bien avoir quelqu'un qui sait comme il faut casser la figure, ça, ils aiment. Et puis, il a dit, donc, il est venu. Ah, mais j'ai dit, c'est sympa, j'ai dit, lui, il a dit, c'est lui là-bas. Et puis, bon, j'ai fait mon témoignage, etc. Et puis, ce chef vient vers moi, il a dit, monsieur Blond, je pourrais vous parler. Et puis, j'ai dit, volontiers. Puis, on marche, il a dit, écoutez, votre histoire me parle. Moi, j'aimerais connaître ce Jésus. Comment je fais ? Mais j'ai dit, mais est-ce que vous voulez vraiment l'accepter ? Il a dit, oui. J'ai dit, mais dans ce cas, la Bible dit que si vous l'aimez, que vous reconnaissez que c'est le Fils de Dieu, puis vous confessez de votre bouche, il l'a fait. Après, il a dit, mais je vais aussi confesser que j'ai une maîtresse, et ça va pas. J'ai dit, oui, ça c'est moins bon. Hein. J'ai dit, mais ça vous pouvez arrêter. Il a dit, oui, je vais arrêter. Il a aussi confessé. Et après, il dit, maintenant je fais quoi ? Comme prochain pas, j'ai dit, mais ce qui serait bien, c'est d'adhérer à une église. Et puis, il a dit, après quoi ? J'ai dit, après, la Bible dit qu'on passe par le baptême. Il a dit, mais j'étais baptisé comme enfant. J'ai dit, moi aussi, avec les trois gouttes. Mais là, on parle du baptême, du vrai baptême que Jésus a fait quand il avait 30 ans, donc l'eau. Il a dit, mais il y a des piscines ici. Il a dit, on pourrait faire ça tout de suite. J'ai dit, écoutez, là, je dois juste me voir avec votre employé, qui aujourd'hui est pasteur d'ailleurs chez ICF. Je vais chez lui, je dis, écoute, il veut se faire baptiser. Non ! J'ai dit, ne fais pas un infarctus. Il a dit, mais comment t'as fait ? J'ai dit, j'ai rien fait. Non, mais c'est une blague. J'ai dit, non, il veut se faire baptiser. Écoute, moi, je ne vais pas baptiser comme ça. Tu es futur pasteur, tu es l'autorité spirituelle, puis c'est toi qui as organisé ça, tu es d'accord ? Ah, il a dit, oui, on l'a baptisé. Puis quand il est remonté donc sous l'eau, quand il est revenu en surface, il y avait plein de fleurs sur la piscine. Hé, hey, ça c'est un Dieu, non ? Alors, Et puis après, dehors, je vois un type avec une moto. J'ai dit, je te connais. Il a dit oui. J'ai dit, tu es celui 2 ans au chômage. Il a dit oui. J'ai dit, puis tu ne m'as pas téléphoné pour me raconter les merveilles que Dieu a fait. C'est pas gentil. Il a dit, pourquoi tu es au courant ? J'ai dit, je suis au courant de rien, mais je sais comment Dieu fonctionne. Raconte. 3 semaines plus tard, il avait trouvé un job. C'était plus de 2 ans au chômage. Tout est possible, mais il s'est humilié, il a demandé pardon à Dieu, il est sorti de la rébellion. C'est aussi simple que ça. Mais ça, tu peux le dire quand tu l'as vécu. Et puis nous pouvons le témoigner. Puis c'est ça. Nous abusons avec nos enseignements sur les finances pour proclamer le grand Dieu et pour témoigner de lui. Et puis pour vendre la marchandise céleste. Et c'est magnifique, et les gens aiment et écoutent. Après, ils tombent encore dans le panneau. Mais oui, après, ils disent, moi, je veux aussi connaître ce Jésus. Ils ne sont pas dans la foi, puis on les baptise. C'est ça notre évangélisation. Moi, je ne serais jamais bon pour distribuer des tracts. Mais par contre, de cette façon-là, oui. Mais vous voyez, Dieu utilise chacun selon ses capacités. Et c'est bon de distribuer des tracts quand tu as l'appel et d'évangéliser, mais moi, je ne me sentirais pas vraiment à l'aise. Par contre, je n'ai aucun problème de témoigner devant des familles hommes d'affaires. Le résultat de, ce mensonge où le diable dit que tu es un homme déchu, c'est que tu penses être seul pour arriver à pourvoir à tes besoins. Ça veut dire que tu as aussi la peur de manquer. Peur d'avoir assez, peur de l'avenir. Et ta bénédiction matérielle, elle vient de l'employeur ou de tes propres forces. Et si l'employeur n'est plus là, tu as un problème. Là, tu es dans une situation désespérée. J'étais licencié. Vous savez ce que je dis aux gens quand ils disent « Moi, j'ai déjà été licencié, puis c'était dur, etc. » J'ai dit « Mais pourquoi tu... » J'ai dit, est-ce que tu crois que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins? Tout le monde dit oui. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'il est vivant? Tout le monde dit oui. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'il t'aime? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est riche? Oui. Mais j'ai dit, mais alors où est le problème? J'ai dit, pourquoi tu as fait un contrat avec ton employeur, là, cette boîte fauchée? Pourquoi tu ne fais pas un contrat de travail? Nous avons fait un contrat de travail avec Dieu. J'ai dit, moi, j'étais toujours entrepreneur. Donc, je ne vais pas être un employé de qui que ce soit, sauf de toi. Donc, on m'a demandé à l'époque, mais je ne sais pas, je n'ai rien contre. Campus pour Christ a dit, vous voulez me prendre? Je dis non, je ne suis pas un employé. Moi, je suis un entrepreneur. Je roule avec Compass, je suis un des seuls qui n'est pas vraiment attaché. Mais il m'aime beaucoup parce qu'on est la vraie locomotive dans le monde. Mais j'ai dit, moi, c'est mon Dieu qui est mon employeur. Mais si tu mets Dieu ici, tu dis, toi, tu es mon patron, je suis ici, je fais un contrat avec toi par écrit, parce que la Bible dit, mets-le sur des tables. Aujourd'hui, tu peux mettre du papier, c'est plus simple. Tu fais ça, mais dans ce cas, tu as le vrai employeur, et lui, il va déléguer à cette boîte-là pour te procurer du travail. Mais si cette boîte ferme, tu peux dire, papa, il y a un problème avec la boîte, là. Toi, la boîte, juste te signale. Mais il faut une autre, il va te donner une autre. Mais, vous savez, c'est la vérité, les amis. Plus tu y crois, plus tu insistes. Et puis, deviens un peu virulent, un peu violent. Matthieu 11, 12, te dis, je veux, ça m'est dû, je l'exige. Oh là là, qu'est-ce que les esprits religieux commencent à danser quand je dis ça, j'exige. Il y a une fois un qui m'a dit qu'elle n'a pas pu dormir pendant deux nuits parce que j'ai dit ça. Mais j'ai dit, mais tu peux bien dormir, laisse courte avec son Dieu. Moi, j'ai ma relation avec Dieu et puis j'exige. Mais c'est une exigence avant tout, chers amis, contre ton doute et contre l'ennemi. Et ce n'est pas contre Dieu. Tu donnes... T'as compris, c'est pas du tout ça, mais c'est ennemi, tu lâches, tu retires tes griffes et doute, tu quittes la maison. C'est ça la violence. C'est la violence contre soi-même et contre l'ennemi. Mais devenez un peu violent. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Dieu, je l'ai dit hier, j'ai dit, moi je veux pas être un petit chrétien fauché. Voilà. Et puis il a dit, mais je n'ai pas demandé ça. Donc on a ici tous ceux, comme résultat, travailler comme un esclave, dépendance envers le monde, est une dépendance envers le diable, la peur, l'inquiétude, le souci, le stress, l'esprit de pauvreté, être petit, qu'est-ce que je suis petit et nul? Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, et c'est un mensonge. La solution, c'est connaissance de l'écriture, des vérités bibliques, de la gérance biblique, application. Ce que vous allez faire des connaissances, sortir du pays maudit selon Deutéronome 28, versets 15 à 68, et entrer dans le pays béni selon 28, versets 1 à 14. Comment faire participation à un cours sur finances publiques en petits groupes, remettre de l'ordre dans sa situation financière personnelle, rembourser les dettes, cela est tout à fait possible avec l'aide de Dieu. Établir son cercle financier personnel, c'est la quintessence de cette formation que vous allez faire, d'avoir le budget personnel qui consiste en obligation, en nécessité et en désir. Et après, tu peux mesurer Dieu. Le seul passage dans la Bible où il est écrit que tu peux mettre Dieu à l'épreuve, que tu peux mesurer Dieu, c'est pas mal, hein, tu ne peux pas faire ça ni avec Allah ni avec Bouddha, mais notre Dieu nous autorise de le mettre à l'épreuve, c'est avec l'argent. Malachie 3.10, où il dit « Joue le jeu avec moi », traduction littérale, « Joue le jeu avec moi, amène de l'argent dans ma maison de provision. » Et ensuite, mets-moi à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour te bénir en abondance. Qui a déjà fait ça? Moi. Personne d'autre? Quand même. Claude, oui, exact, quand même. Oui, moi j'aime ça. Parce que quand tu verses sur un compte, tu peux aussi en retirer. Mais oui, avec la dîme, tu ouvres un compte céleste. Et ce compte céleste est à ton nom. Et ce compte céleste, il porte quoi? Il porte des intérêts? Le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec les intérêts. Le monde, intérêt, spéculation, addition, royaume de Dieu, multiplication. Multiplication. Et quel est le multiplicateur qui déclenche l'élément qui déclenche la multiplication de la dîme? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez le compte au royaume de Dieu. Nom de Sarah. Tu as le compte. Maintenant, comme il ne porte pas d'intérêt, mais multiplication, quel penses-tu est le déclencheur qui provoque la multiplication? Donner, ça veut dire les offrandes et les dons, en plus de la dîme. Parce que la dîme de 10%, ce sont en quelque sorte les prémices, la première partie de la récolte. Et Dieu veut te mettre à l'épreuve, est-ce que tu auras confiance si... Et puis c'est seulement 10%. Les Israélites avaient 23,33%, ils avaient 3 dîmes. Et puis après tu donnes, fais encore des offrandes et des dons, et puis tu déclenche la multiplication, et après tu peux aussi retirer. Là, l'autre jour, on a eu un couple qui ont vraiment joué le jeu, ils ont semé, et maintenant, ils aimeraient retirer, ils ont un terrain en vue pour construire, et puis ils ont dit, on les a coachés pendant 3 ans. C'est un des patrons de la société IT. Et puis ils ont dit, non, c'est 0 crédit bancaire. J'ai dit, oui. Parce que à Ouagadougou, ben je dois quand même vous raconter ça. On était à Ouagadougou pour un séminaire finance business pendant une semaine. Il y avait 200 personnes et il y avait un blanc qui était tous les soirs là. On ne pouvait pas le rater, il était devant à droite. Et ce type, après, il est venu vers nous et puis il a dit je suis franco-suisse, je vis régulièrement, je vis en Suisse, marié avec une Burkinabé, est-ce que, quand je vais en Suisse, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? Et j'ai dit avec plaisir. Et il a donc ouvert à près de Ouagadougou, exactement à Signaré, il a ouvert un lycée il y a maintenant 6 ans qui s'appelle Martin Luther King. Si vous allez sur Internet, Martin Luther King, au Burkina Faso, vous tombez dessus. Et cet homme s'appelle Jean-Daniel Closer. Et d'ailleurs, juste que j'y pense, il vient dès vendredi, ce vendredi qui vient, vendredi soir, samedi, dimanche, on a un séminaire. Là, c'est encore particulier, c'est comment l'argent est créé, l'endettement du monde, les solutions, c'est un truc spécial. On a fait en langue allemande il y a une semaine et maintenant on fait en français. On a cet hôtel-là, on l'a déjà pratiquement rempli avec les participants. Je crois qu'il y a encore deux, trois chambres de libre, juste si quelqu'un s'intéresse. Donc cet homme, il vient de Ouagadougou pour venir à ce séminaire. Et lui, il a entendu ce que j'ai enseigné. Et puis il nous a témoigné parce qu'il était en train de construire la première partie de cette école. Et pour ça, il avait besoin de 100 000 euros. Avec 100 000 euros, on fait là une construction qui vaut 2 millions, ici chez nous. Et il avait déjà l'accord d'un prêt hypothécaire sur une maison qu'il avait héritée près de Genève, de ses parents. Et puis il nous a témoigné environ 6 mois plus tard, quand il est venu en Suisse, il a dit « je dois vous témoigner quelque chose » parce que nous, on l'ignorait. Il a dit « quand tu as dit… » Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant ? Première question, tout le monde dit oui. Ce que j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous croyez que Dieu vous aime ? Tout le monde a dit oui. Est-ce que vous croyez que Dieu est accessible ? Tout le monde a dit oui. Est-ce que vous croyez que Dieu est immensément riche ? Tout le monde a dit oui. Et puis tu as dit, qui a ici une maison, un appartement avec une dette hypothécaire ? Beaucoup ont levé la main. Et j'ai dit, mais si vous dites, vous avez dit oui à tout ça, vous avez dit oui, puis vous levez la main que vous avez des dettes. J'ai dit, mais... Dans ce cas, il y a un petit problème. C'est comme si vous aviez un père qui est immensément riche, qui vous aime et qui vous donne de l'argent nécessaire et puis vous prenez un crédit bancaire. Ça, c'est idiot, non? Et vous savez, c'est cette dimension que nous devons viser. Cette dimension, les amis, c'est pas moins. C'est cette dimension. Et cette dimension, je peux vous dire, elle fonctionne. Parce qu'elle correspond à la vérité biblique. Puis j'ai dit, alors vous avez dit oui, puis vous êtes sous le joug de l'endettement. J'ai dit, est-ce que quand vous avez présenté le dossier pour obtenir le crédit, tout un dossier épais à votre banque, est-ce que vous avez présenté le même dossier à la Banque Céleste ? Je peux déjà vous dire non. Oui ? Non. Oui ? Oui ? J'ai dit, voilà. Vous n'avez même pas donné une seule chance à l'Éternel, avec sa banque céleste, de pouvoir jouer le banquier pour vous. Je suis sérieux. Si quelqu'un ne peut pas le croire, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je le sais. Je l'ai vécu. Et cet homme a dit, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, à Pascaline, d'abord je pensais que c'était un peu fou, parce qu'il venait d'une association de frères, un peu... Et il a dit, mais tout ce qu'il a dit est biblique. Et ils l'ont fait, je raccourcis. Et maintenant, on est à la troisième extension avec 300 élèves qui sont nourris, logés, enseignés. Et c'est la meilleure école de tout le Burkina Faso, numéro 1 chaque année. Nous avons un orphelin, on peut pour 2000 euros, on peut... sponsoriser un enfant pendant une année. Nous avons un orphelin qui, en plus, il avance très bien. Puis on a déjà enseigné là-bas, puis je vais de nouveau retourner. Maintenant, ils arrivent dans l'âge, parce qu'ils les ont depuis petits, puis maintenant, ils sont déjà 16-17 ans. Puis j'ai dit, le moment est venu, Jean-Daniel, et il sera la semaine prochaine en Suisse, où je vais venir chez vous et on va les mettre sur orbite. On va faire d'eux des entrepreneurs. Et on va le faire. Et puis ça va être la nouvelle élite du pays. On va faire d'eux des entrepreneurs prospères. Il n'y a aucun problème. Je sais comment ça fonctionne. Je connais mon Dieu. je sais comment on devient entrepreneur et en plus combien, comment on peut gagner de l'argent et puis surtout maintenant ce côté spirituel qui est associé. C'est ça, que nous pouvons faire. Donc c'est un exemple sensationnel qui s'est passé là-bas. Donc nous pouvons devenir un instrument de bénédiction quand nous avons vraiment, quand nous sommes dans l'obéissance et que nous sommes devenus prospères. Je dis toujours, Dieu paye ce qu'il commande. When God gives a vision, he also gives provision. Ça rime magnifiquement bien. Oui, il faut juste être sûr que c'est lui qui a participé à la commande. Beaucoup de gens commandent et puis ensuite ils associent Dieu un peu comme de la mayonnaise et puis ils donnent des ordres à Dieu qu'il doit maintenant, il doit bénir. Et puis ça, je peux vous dire, vous pouvez oublier, Dieu est souverain et il ne bénit pas n'importe quoi. Alors donc, il faut faire attention, il vaut mieux discuter avec lui et le faire d'entente avec lui. Et à ce moment-là, la Bible dit que si vous l'associez à vos œuvres, ça devient ses œuvres, et puis il ne peut pas maudire ses propres œuvres. Il faut juste avoir la collaboration avec Dieu. Ensuite, par deux, c'est comment fonctionne le système du monde. On l'a fait hier, royaume de Dieu, quelles sont les principales différences entre ces deux systèmes. Mais c'est très bien si nous avons encore une fois une répétition. On a vu, hein, les deux systèmes sont diamétralement opposés. Voyez, diamétralement opposés. Dans le système du monde, nous sommes serviteurs du prince de ce monde, du dieu de ce monde, monsieur le diable. En tant qu'homme déchu, nous servons Satan par l'intermédiaire de son collaborateur Mammon, qui est un faux dieu. Et nous piochons à la sueur du front. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes rachetés par Jésus, nous sommes réinstaurés comme gérants de cette terre. Nous ne piochons pas à la sueur de notre front, notre activité professionnelle correspond à notre appel. L'argent devient le fruit de notre activité, uniquement le fruit. Hier, on a vu dans le monde, propriété, moi, toi, ici, nous devons savoir que tout appartient à Dieu et que nous ne sommes que des gérants, mais responsables devant Dieu. Nous devons être, en plus d'être fidèles et honnêtes, nous devons être prospères. Donner, recevoir, voyez, on a vu ça hier. Dans le monde, ça fonctionne avec acheter, vendre, dans le royaume de donner, recevoir. Dans le système du monde, si tu donnes, tu perds quelque chose. Donc il vaut mieux prendre que donner. Mais la parole dit, donnez et il vous sera donné. Et puis plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et dans Philippiens, il est dit, celui qui donne, il s'enrichit. C'est complètement contraire à ce que dit le monde. Celui qui donne s'enrichit. Et celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Oh mon Dieu, le jour où le peuple de Dieu aura compris. C'est là que nous allons casser la baraque. La baraque du diable. Dans le système du monde, l'homme veut forcer avec l'aide de Mammon la multiplication par la loterie, jeu et spéculation. Le diable ne peut pas multiplier. Ça, c'est son grand problème. De ce fait, il a un problème de personnel. Il n'a que 30% des anges qui l'ont suivi et ils ne peuvent pas se multiplier. Ils ne peuvent pas se reproduire. Tandis que nous pouvons nous reproduire. Le diable ne peut pas faire cela. Il ne peut pas être omniprésent. Il peut être une fois à une place. Alors quand des fois des gens me disent qu'ils sont un peu dans des situations difficiles, ils disent le diable, j'ai dit non, attends, oublie. J'ai dit, je te dis tout de suite, tu n'es pas assez important pour le diable, pour qu'il soit venu chez toi personnellement. Il peut être à une place à la fois, donc non. Non, j'ai dit, écoute, tu as simplement fait une connerie et puis c'est, voilà. Et ce n'est pas le diable, tu es toi. Réussis toi-même à te mettre dans cette situation. Alors, voilà, maintenant, allons-y directement à la racine, parce qu'on veut, régler ça. Vous savez, des fois, les gens cherchent soit en haut, ils disent, Dieu n'a pas fait ceci, cela, il n'a pas ouvert une porte, une fenêtre, Après, j'ai dit, écoute, oublions en haut tout est bon, cherchons en bas, on gagnera du temps. Parce que c'est en bas. Ça a fait le tour en Afrique du Sud quand on était dans les 5 plus grandes villes pour une conférence. Ça a fait le tour, on m'a dit après, parce que j'ai dit, the problem is never upstairs, it's always downstairs. Donc le problème n'est jamais en haut, il est toujours en bas. Alors ça veut dire, le diable ne peut pas multiplier, mais il essaye de nous pousser, de vivre la multiplication par la loterie, le jeu, la spéculation. Tandis que Dieu, il peut multiplier dans tous les domaines. Il multiplie l'homme, ce que le diable ne peut pas faire avec ses anges, le bétail, les fruits, les récoltes, et même l'argent et l'or. Ça, c'est dans Deutéronome 8, 13. Ton argent et ton or se multiplieront, et je peux vous dire, ce temps va venir, quand l'argent, mais ça, c'est ce que je vais enseigner la vendredi, samedi, dimanche qui vient, à Wingen, moi, je peux vous dire, on va connaître une envolée spectaculaire qui va venir. C'est uniquement une question de temps. Quand la monnaie du monde se casse la figure, il y aura l'effet de ciseau. L'effet de ciseau, c'est que la monnaie de Dieu va monter. Il faut juste attendre le bon moment et il faut juste faire attention de ne pas tomber dans le piège de s'enrichir égoïstement pour soi-même, mais d'utiliser cette multiplication de l'argent et de l'or pour être un instrument, devenir un instrument de bénédiction et pas tomber entre les mains de mammon. Les bénédictions de Dieu, il y a en principe, il y a les trois sortes matérielles. Là, on parle de l'argent, donc monnaie, c'est des bénédictions matérielles. Il y a la manne, et chaque jour, il peut nous donner le nécessaire, même encore aujourd'hui. Lise a vécu ça. Elle a vécu ça quand son premier mari l'a abandonné. Elle avait même des fois pas vraiment l'argent pour acheter de la nourriture. Elle a vécu la multiplication de la nourriture. C'est toujours le même Dieu. Il peut faire ça. Et si les gens ne le vivent pas, c'est parce qu'ils ont purement et simplement un petit problème, soit ils sont dans l'ignorance, ou ils ont donné au diable un droit. Ce droit peut être par le péché, ce droit peut être par la désobéissance, ou ça peut être par la rébellion. Par la rébellion contre Dieu. Et puis là, je peux tout de suite vous dire, vous ne recevez rien. Alors lui, vous vous rébellez, vous voulez lui dire, je te dis, j'attends pas ce temps-là, je veux maintenant. Là, forget it. Marchera pas. Donc, il faut faire très attention. Mais quand vous vous délivrez entre les mains de Dieu et puis vous le louez dans toutes circonstances, même quand ça va pas bien et que vous le louez, vous avez un père tendre. Moi, quand j'étais dans la pire des situations, j'ai pris la plus longue douche de ma vie. Ma femme, première femme, m'avait dit, je ne peux pas dire les mots qu'elle a utilisés, mais en grosso modo, elle a dit, tu ne mangeras plus ici, va dans ton église de point, 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 point. Et puis, etc. Et je prenais une douche, et puis j'ai dit à l'Éternel, c'est quand même terrible. Maintenant, je suis déjà dans une situation financière difficile où les banques me montent dessus, mes partenaires, il y a un après l'autre qui décède. Et là, j'ai ma propre femme, ma petite fille, qui est aujourd'hui dans la foi, qui travaille avec moi. À l'époque, elle avait 8 ans, elle a dit « Salut vieux con » quand je rentrais. Donc, c'était l'idée de sa maman. Et là, j'ai dit « Je me plains un peu sous la douche. » Et je vois une image que un grand fauteuil rouge avec une tête qui dépassait, cheveux blancs, assez long. Et donc, j'ai vu que c'était le tronc avec Dieu dessus. Je n'ai pas vu sa face, mais depuis derrière. Et je vois un petit garçon qui vit en face. Et je regarde, et j'ai vu que c'était exactement moi qui étais sur une photo quand j'avais environ 8 ou 9 ans. J'ai vu exactement, c'était pile poil moi, comme sur une photo. Et puis je regardais, et puis je viens vers lui, et je dis, salut papa, je t'aime. Et puis il dit, viens courtly. Vous voyez, en suisse allemand, on rajoutait L-I, c'est Hansli, etc. Donc, il dit, viens courtly. Il dit, est-ce que tu aimerais une glace? Et puis moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais enfant, encore aujourd'hui, surtout les glaces du Danemark, ça c'est voilà, les meilleures. Et puis j'ai dit, volontiers, papa. Et puis il me donne un cône avec une énorme quantité de glace. Et je vois, pendant que moi je prends en possession, un autre garçon qui arrive aussi et qui fait comme ça. Moi aussi, je veux une glace. Moi aussi, je veux comme lui. Et puis Dieu lui dit, tu n'auras rien. Et le petit continue à se manifester. Et je me vois revenir avec toutes les couleurs dans la bouche, jusqu'ici. Ah, manifestement, j'avais terminé. Et puis Dieu dit, est-ce que tu veux encore une? Et après, elle a dit, je donnerai tout ce que ton cœur désire. C'était la plus grande touche parce que je pleurais et je pleurais. Et effectivement, j'ai vécu à ce moment-là, j'ai vécu des miracles dans les finances. Et puis après, j'ai connu Lise. Et puis vraiment, malgré une période difficile où j'ai tout perdu, passé par le divorce, quitté cette magnifique villa et tout, vu Dieu à l'œuvre pour vivre le vrai bonheur que j'ai jamais eu avant. J'avais la grande maison et tout, le confort, etc., puis l'argent, mais c'était jamais le vrai bonheur. Et ensuite, il y a les fruits. Donc, les fruits, c'est pour lesquels nous n'avons pas semé. Ici, c'est Dieu qui donne. Ici, nous n'avons pas semé, mais nous le recevons indirectement de Dieu par héritage, don, cadeau. Et ensuite, nous avons semé et récolté. C'est donc le salaire, le revenu. Mais c'est aussi quand nous donnons la dîme. Et je vous pose la question, qui donne la dîme, lève la main. D'accord. Alors maintenant, tu as levé la main. Non, tu as levé la main. Est-ce que quand tu donnes la dîme, tu attends un retour? C'est pas un peu gonflé d'attendre un retour? Qui n'attend pas un retour? Voilà. Alors, je te fais un exemple. Ne le prends pas mal. Donner la dîme, c'est comme semer dans le royaume de Dieu, tu es d'accord? Voilà, tu es un paysan, tu sèmes, pourvu que rien pousse, rien du tout. Je veux rien en retour, éternel. Qu'est-ce que j'aime semer et puis sans récolte? C'est un des plus grands mensonges de l'ennemi que l'Église répand, proclame et croit. J'ai des fois, dans une grande église, j'avais une fois toute une lignée de pasteurs et anciens, ils ont tous dit, j'entends rien. Je me suis dit, oh mon Dieu. J'ai dû être très nuancé. Je ne pouvais pas dire. Et puis, j'ai quand même montré le truc, et puis après, j'ai vu discuter entre eux. Puis après, ils m'ont dit, t'as raison. J'ai dit, mais bien sûr, j'ai raison, c'est marqué dans la Bible. Mais la différence, vous comprenez, c'est le diable qui vient. C'est l'esprit de religiosité qui te dit, mais tu ne peux pas revendiquer envers Dieu. Oui, je suis d'accord. Envers le diable, oui. Mais tu peux donner avec un cœur sincère. Dans la joie, la dîme. Mais en même temps, tu peux dire, papa, que cette dîme que je verse puisse porter du fruit et que la récolte puisse servir de devenir un instrument de bénédiction pour beaucoup d'autres. Et c'est ça que Dieu cherche. Vous avez compris? Et c'est pour ça que nous restons petits. Et c'est pour ça que beaucoup de dîmes ne portent pas de récolte. Elle reste, puis Dieu dit, mais qu'est-ce que je fais avec tout ce pognon, j'ai déjà tellement, puis là, ça ne doit pas être évident. Les discussions entre le papa et le fils, non, mais c'est l'attente, si tu veux, c'est l'attente du cœur. Si tu donnes la dîme et tu attends à rien, Dieu ne va pas te forcer à recevoir une semence dessus.
Moi, je sais qu'il donnera.
Oui. Oui, tu peux le... Donc, savoir, ça veut dire que tu crois. Alors, ça veut dire, dans ce cas... Si tu le crois, tu sèmes, tu donnes la dîme en attendant une récolte. Oui, ok. Oui, mais c'est ça que je dis. Mais il y a des gens qui disent, non, moi je ne veux rien en retour. Je veux rien, je donne la dîme, mais je ne m'y attends à rien. Mais est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Oui. Oui, par obéissance, c'est obéissance, ça veut dire on obéit à ce que, quand Dieu dit dans Malachie 3.10, apporte de la dîme. Et puis après, si tu veux, c'est le comportement spirituel, c'est ça que je mets maintenant en avant. Te donner la dîme, en attendant aussi, ou en sachant et en attendant que Dieu va multiplier et qu'il y aura un retour. Un retour que tu peux de nouveau utiliser pour donner plus loin, pour être un instrument de bénédiction pour d'autres. Mais ne pas dire, je donne la dîme et je m'y attends à rien. Je donne et puis c'est bon. De vraiment avoir une attitude de cœur qui donne avec joie, reconnaissance, mais qui dit, en même temps, je suis preneur d'une récolte qui me permettra d'être un instrument de bénédiction. Il y a des gens qui donnent, mais quand on discute avec eux, ils n'ont pas les mêmes bénédictions que nous vivons, nous, et puis encore beaucoup d'autres. Nous, nous vivons des trucs, mais cette voiture-là, cette grande Cherokee m'a été mise à disposition, gratos, par une société immobilière. Et j'ai dit, mais oui, mais c'est exactement ça qui me plaît. J'ai dit, tu peux même, l'autre jour, mais oui, l'autre jour, j'ai dit, tu sais, papa, si jamais, il y a maintenant Maserati qui a sorti une nouvelle Jeep, alors moi, je suis preneur, hein, si jamais. Mais oui, et puis si je n'ai pas, je n'ai pas un problème. Vous comprenez ça? Mais est-ce que nous sommes des vermicelles ou est-ce que nous sommes des princes et des princesses? Il ne faut pas devenir gonflé, attention. Mais quand nous avons des désirs, il y a les obligations, Dieu pourvoit. Il a promis. Les nécessités, c'est la quintessence de cette formation financière, on en parlera. Il a promis. Ensuite, il y a les désirs. Il ne promet pas tous les désirs. Mais tu peux avoir des désirs et tu peux les soumettre à papa. Lise avait prié, je vous ai dit hier, pour avoir un homme. Et quand on s'est rencontrés, elle voulait être sûre. Ben, ce n'était pas évident pour moi. C'était simple. Elle a noté dans sa Bible, si courte est l'homme qui vient de toi, donne-lui le passage dans Ésaïe 45, versets 1 à 3. Mais moi, je ne savais rien. Mais la veuve de ce monsieur qui m'a montré le chemin vers Jésus quand j'étais au sommet de mon arrogance personnelle et de mon succès personnel. Et cet homme m'a accompagné pendant 3 ans et il est mort à 52 ans, crise cardiaque. Et des années plus tard, quand justement je fréquentais Élise, la veuve dit, j'avais le calendrier de il s'appelait Otto, et le jour du décès, quand je voulais jeter le calendrier, je l'avais gardé pendant des années, et puis là, je voulais le jeter, je me suis dit, je dois te donner la feuille du jour de décès, le 20 avril. Et puis moi, je prends cette feuille, c'était une grande feuille, avec donc avril, l'année, puis ensuite le 20, et puis en bas, verset biblique, et je le prends, puis je vais chez Lise, On se fréquentait, elle avait un salon de coiffure, je me faisais couper les cheveux chaque semaine, gratos. D'ailleurs, c'est fou, depuis que ça pousse, je ne sais pas ce qu'elle m'a mis dedans. Et donc, je sors cette feuille et je dis, regarde, là c'est le jour de décès de mon ami Otto. Puis elle regarde en bas, Ésaïe 45, versets 1 à 3. Puis elle a dit, j'ai noté ça dans la Bible. Ben, alors là, voilà, j'ai dit, ben, ok, je peux directement venir habiter chez toi. Non, je n'ai pas demandé parce que je savais très bien qu'elle n'aurait jamais dit oui. D'ailleurs, quand on s'est marié le vendredi, civilement, puis le samedi à l'église, le vendredi, j'ai dit, Lise, je pourrais venir chez toi pour dormir. Elle a dit, non, on attend demain la bénédiction de l'église. Puis je connaissais la réponse. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est donc un peu des histoires. Quelle valeur ? On a dit hier, homme, toujours la première valeur, la plus haute, investir dans l'homme. Aussi le pauvre, la veuve. Mais quand les gens sont dans une situation financière difficile, ne donnez pas de l'argent, parce que tenez bien, retenez bien, on ne règle jamais un problème d'argent avec de l'argent. Jamais. C'est l'enseignement qu'il faut. Enseignement. Puis peut-être après, peut-être Dieu demande maintenant d'aider. Mais si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui est dans les difficultés, il est en général dans la difficulté parce qu'il ne sait pas vraiment gérer l'argent. Donc vous investissez dans un puits sans fond et c'est donc pas de l'argent qui est bien investi. Et vous prolongez la souffrance de la personne parce qu'elle va de nouveau arriver dans la même situation et puis ça va continuer. Donc, dites-lui, écoute, moi je vais t'accompagner, nous avons un cours sur les finances au sein de l'Église, je t'offre ce cours et je t'accompagne et puis tu verras, tu vas sortir. Et puis vous verrez que 70% vont dire non et puis le succès est entre 25 et 30%. Et les autres, nous les laissons. On dit OK. Ne perdez pas du temps avec des gens qui ne veulent pas. Mais investissez du temps dans des gens qui veulent. Et là, mais là, ça vaut la peine. Mais ayez une stratégie de tête et non pas de queue. Ne faites pas partie de ces gens qui font la relation d'aide sans fin, sans changement. Et puis que la situation ne change jamais. C'est exactement ce que le diable veut, qu'on tourne en rond. Et toujours les mêmes personnes qui sont toujours dans la même situation. Moi, j'ai fait ça dans mon ex-église en Suisse, quand j'étais dans de grands problèmes financiers. Le pasteur m'a dit, est-ce que tu serais d'accord de t'occuper de gens qui ont des problèmes financiers? Et je me suis dit, c'est encore un comble. Moi, je suis dans des énormes problèmes. Et puis maintenant, on me demande... Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Je te fais une proposition, papa. Moi, je m'occupe là de ces petits fauchés avec 10 000, lamentablement 10 000, 20 000, 100 000 francs de dette. C'est vraiment des broutilles. Et toi, tu t'occupes de mes grandes dettes. Est-ce que c'est une proposition? Et puis il a dit, c'est une excellente proposition. Puis je me suis occupé de ces petites dettes qui allaient de 10 000 jusqu'à 100 ou 150 000 ou peut-être un peu plus. Et puis lui, il s'est occupé de mes 140 millions que réclamaient les banques. Vous savez, c'est ça. Je crois qu'il fait un peu chaud, non? Vous ne trouvez pas? Et donc, homme la plus haute valeur, ensuite agriculture. Ça, c'est vraiment le premier bien matériel, le plus haut. Là, il y a la multiplication par excellence. On produit la nourriture. Ensuite, il y a l'immobilier où on habite dedans. Les entreprises gérées selon les principes publics, argent et or. Et quand vous regardez ici, qu'est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'on chauffe comme ça? Parce que vous avez froid? On peut éventuellement. Et puis c'est ce bruit-là qui fait le chauffage. Autrement, je vais un peu dehors. Est-ce qu'on veut faire une petite pause? Oui, je vais un peu dehors parce que moi, je commence à avoir chaud. On va continuer. Je constate que nous sommes au slide numéro 22 et que j'en ai 162. Maintenant, je demande à mon ami Raymond si on fait une nocturne.
Oui. Ce soir?
Non, je plaisante. Non. Alors, écoutez, je suis au slide 22 sur 162. On va mettre la gomme. Mais comme vous pouvez le recevoir cette présentation, vous pouvez, je peux avancer à un certain moment un peu plus vite. Et vous pouvez toujours le regarder à la maison tranquillement, puis demander au Saint-Esprit de vous guider. Alors, ici, juste une comparaison. Ce qui se passe dans le monde et dans le royaume de Dieu, la malhonnêteté, séparation d'avec Dieu, famille détruite, mort, pauvreté, honnêteté, relation intime avec Dieu. Vous voyez la différence? Famille bénie au lieu de détruite, promesse de vie au lieu de la mort, abondance au lieu de pauvreté. C'est clair et net. Et toujours les versets bibliques. Tout ce que je dis doit être sur la base de la Bible. Et ce que vous vous dites, je vous demanderai aussi, où est-ce que tu as lu ça? Et d'ailleurs, juste une question, quand on a une pause, si je peux juste faire une petite pause, ce sera sympa. Ce qui veut dire que quand vous avez des questions, de préférence les poser en plénum. Et après, les gens disent, oui, mais tu comprends qu'il y a des questions qui sont un peu gênantes. Je dis, mais dans ce cas, tu les mets sur papier, anonymement, tu les poses ici, et puis moi, je réponds. Si je peux. Et en principe, le Saint-Esprit m'aide. Système du monde, travail, punition, malédiction, mais c'est un appel saint, selon Jean 5, où il est dit que Dieu travaille toujours. Le monde n'est pas terminé, la création n'est pas terminée. Dieu a voulu nous associer. Le travail, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompenser avec Christ le Seigneur. Travaillons-nous au paradis? Qu'est-ce que tu dis, Jean? Est-ce que c'est le hamac? Oui, ça sera. Parce que l'éternité, c'est quand même assez long. Hein. On travaillera. Et on aura des responsabilités. Et à quel moment Dieu a instauré le travail? Mais dans le jardin d'Éden. Donc, que pouvons-nous en conclure? C'est que le passage ici, sur Terre, est une période de préparation pour l'éternité à venir. C'est ici que nous apprenons. C'est ici que nous formons. Et ensuite, nous l'utilisons dans l'au-delà. Serviteurs. Vous voyez, il y a le message pour les serviteurs, mais aussi pour les maîtres. Les serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Mais vous savez, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, je parle toujours d'enfants de Dieu parce que on est entre nous. Ce qui m'intéresse, c'est d'enseigner le peuple de Dieu. Trop d'enfants de Dieu ont un comportement qui ne correspond pas à ça. Et c'est difficile, je le sais. Mais quand les banques m'ont harcelé, et notamment un directeur de banque qui me devait de l'argent sur un travail exécuté pour lui, mais un montant important, quelques dizaines de milliers, et il ne voulait pas payer, et j'entrais dans les difficultés, à ce moment-là, et c'est lui qui m'a aidé à me massacrer, à ce moment-là, j'ai dit à l'Éternel, j'ai dit, c'est vraiment, ce type, c'est un salaud. J'ai dit, ce qu'il a fait, quand je vais chez lui, est-ce que je ne pourrais pas le prendre un peu par la cravate et puis lui mettre à la droite plein dans... Puis il a dit non, non, pas de cravate et puis pas la droite, mais tu peux le bénir. Et puis j'ai donc, quand je l'avais en face, j'avais effectivement envie. C'est l'homme, hein, le vieux salopard qui sort. Hein. Je me suis dit, je pourrais le tirer par la cravate. Et puis ensuite, quand je l'ai vu, puis il m'a dit, bon, pourquoi me regarder comme ça? Et puis je lui ai dit, écoutez, peu importe ce qui arrive, vous avez réussi à me détruire, mais sachez que je ne vous en veux pas. Et puis je ne l'ai pas béni, parce que autrement il m'aurait déclaré fou, mais je l'ai quand même béni quand je suis sorti, mais pas en parole. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'il soit béni. Et ça, c'est très important. Après, le Seigneur peut te bénir en retour, mais si tu ne le fais pas, tu as de la peine à recevoir ses bénédictions. Et puis les maîtres aussi doivent être corrects. Et puis sachant que leur maître est dans les cieux. Ensuite, la fourmi, qui est un exemple, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été, elle amasse pendant la moisson. Et nous sommes appelés à nous lever et puis à travailler, mais travailler selon ce que Dieu a prévu pour nous, pour que la pauvreté ne nous surprendra pas. Et ici, c'est donc l'apôtre Paul qui dit qu'il a toujours été indépendant. C'est pour ça que moi, je voulais rester indépendant. Je ne voulais... Ça, c'est ces compas, ils sont très bien. Mais je ne voulais pas dépendre d'eux. J'ai dit, moi, c'est avec lui. Et je vais travailler, et c'est les 10% dans l'immobilier. Bon, j'ai encore des postes de... Le Seigneur m'a donné aussi plusieurs postes de membres du conseil d'administration. Et donc, je travaille... Parce que, il est dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. C'est assez clair. Pas qu'il ne peut pas travailler. Celui qui ne peut pas travailler, il faut le soutenir. Mais celui qui ne veut pas travailler. C'est pour cette raison que j'ai un peu de la peine quand je vois des chrétiens qui sont au chômage, ce qui peut arriver, mais qui ensuite ne veulent pas sortir. Il y en a. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. La question primordiale, est-ce que tu travailles pour gagner de l'argent, pour pouvoir à tes besoins, ou est-ce que tu travailles en étant dans l'appel de Dieu, et afin de pouvoir donner plus loin, devenir un instrument de bénédiction? Responsabilité de l'homme, on en a parlé hier, dans le monde, notamment socialisme et communisme, veulent créer la dépendance envers l'État, avec comme résultat une déresponsabilisation de l'homme. L'homme ne doit plus moissonner ce qu'il a semé, mais la parole de Dieu dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est maintenant en cours, pleinement en cours, en France, où l'État est tellement devenu un État providentiel, il ne pourra plus pourvoir à toutes les promesses qu'il a données, de loin pas. La France a un endettement maintenant de 2 000 milliards, passé 2 000 milliards, donc c'est le 100% du PIB. Mais c'est uniquement parce que le bilan est triché. Parce qu'il faudrait rajouter entre 600 et 900 milliards pour des engagements que l'État a pris pour les retraites. Et puis ça, on a simplement sorti du bilan. Pour ainsi dire, la situation, humainement parlant, est sans espoir. Il n'arrivera pas, le M. Macron. Parce que s'il, vraiment, il devrait couper, il y aura la révolution. Et j'ai vu ça dans notre église, on avait un conseil d'église cette semaine, lundi ou mardi. Toi, à Ambi, dans une église avec 1200 places assises, on a reçu... Donc c'est une obligation de l'association des handicapés. On doit faire des travaux pour 120 000 euros uniquement pour les handicapés. Que ça veut dire la rampe à l'extérieur, elle est trop raide, il faut 2%. Ça veut dire pour franchir les quelques marches, il faut faire une rampe sur 20 mètres. 2%, c'est ce qu'on demande pour l'écoulement d'eau. C'est 2 cm sur 1 mètre. C'est de la folie totale. Ça veut dire que l'handicapé n'a plus besoin de personne. Il peut rouler lui seul. Ensuite, la porte. Le type a dit, la porte, ça ne va pas. L'handicapé ne peut pas l'ouvrir. Donc, il faut la changer. 3 500 €. Ensuite, il dit, là, il manque 2 cm en largeur pour entrer dans les WC. Et ici, dehors, il manque 10 cm. Mais j'ai dit, mais ça suffit pour... Non, c'est les trucs, les normes. Ça veut dire, il y a des normes qui sont complètement idiotes, et puis, en plus, il n'y a plus l'argent. J'ai dit, moi, je développe une stratégie, on va les traîner en longueur. On va les tirer en longueur. Et puis d'ici là, il y aura des changements. Puis c'est ce qu'on va faire. On n'a pas d'autre possibilité, simplement tirer en longueur, mais selon les bases légales. Mais c'est de la folie. Dieu et argent, on dit que l'argent te procure bonheur, indépendance, sécurité et liberté, et que Dieu n'a rien à voir avec l'argent, ton succès financier a comme but de t'offrir le standard de vie que tu mérites, mais la Bible enseigne que ta relation avec l'argent influencera ta relation avec Jésus. La connaissance des principes bibliques en relation avec l'argent approfondira ta relation avec Jésus et t'apprendra à être satisfait dans toute situation. Et comme j'ai dit, le seul passage où Dieu dit « tu peux me mettre à l'épreuve », c'est en relation avec l'argent. Et ce n'est pas un hasard. Comment gérer l'argent? Ici, on dépense comme on veut. On fait confiance. Ou on entasse. Et ici, la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et ça, ou même la racine de tous les maux, certaines. Traduction. Pas une, mais la racine de tous les maux. Et ça, c'est utilisé pour... maudire l'argent, mais c'est dommage, mais nous avons besoin de pognon. Mais nous ne devons pas l'aimer. Nous devons l'utiliser, juste utiliser, pour nos besoins et puis pour devenir un instrument de bénédiction. Et non pas dire, ah non, je ne veux pas. L'autre jour... Une association chrétienne m'a invité pour demander des conseils, puis ils ont dit, il y a un problème, on a la loterie suisse, et puis cette association, elle fait du bien pour réintégration de jeunes sans travail, des paumés, vraiment des gens qui sont éjectés. Et puis la loterie suisse leur a promis 200 000 suisses. Et j'ai dit, comment vous le voyez? Ah non, mais on ne peut pas prendre ça. J'ai dit, pourquoi? Mais ça, c'est de l'argent de la loterie. J'ai dit, mon Dieu, les amis. Faites-vous des amis avec des richesses injustes du monde. Oui, mais tu ne veux pas dire qu'on peut prendre si la mafia vient avec une valise. J'ai dit, non, là ça n'ira pas. Mais il y a une différence entre la mafia avec une valise et une loterie suisse qui est officiellement déclarée, qui est une institution reconnue et qui veut maintenant donner aux chrétiens 200 000 pour faire du bien. Mais j'ai dit, non, mais attendez, où est le problème? Il n'y a aucun problème. Il faut juste, on ne peut pas prendre l'argent quand ça vient du crime et puis qu'on te le file comme ça au noir, etc. Ça, c'est clair, ça ne va pas. Mais si maintenant le casino, l'association des casinos français, vous dit, ici, à l'église, est-ce qu'on aimerait vous verser 1 000 000? Mais prenez-le! Mais oui, mais bénissez-les! Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est de l'argent qui est déclaré. C'est pas de l'argent qui... Donc, c'est de l'argent qui vient de l'injuste, du monde injuste, et puis qui entre dans le royaume de Dieu. Et trop d'enfants de Dieu passent à côté de ces bénédictions. Et c'est ce que l'ennemi veut. Quelqu'un m'a dit, écoute, est-ce qu'on peut jouer à la loterie? Parce qu'il y a Euroloto, il y a des fois des montants phénoménales. J'ai dit, bon, loterie, je ne peux pas dire que c'est interdit, parce qu'ils ont quand même tiré au sort qui l'apôtre qui a remplacé Judas. Ils ont tiré au sort. Alors on ne peut pas dire, vous savez, il faut faire attention, on ne peut pas dire non. Mais j'ai dit, tu ne dois pas devenir dépendant. Et c'est la même chose avec l'alcool. Bon, les Américains disent que c'est du jus de fruits que Jésus a fait, mais pour moi, c'est clairement du vin. Mais il ne faut juste pas devenir dépendant. Et là, avec... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai commencé à... je voulais faire un exemple. Donc... Hein? Pardon? Voilà. Alors, avec la loterie, voilà, je reviens exact. Avec la loterie, j'ai dit à cette personne, en principe, je ne vois pas un grand problème. Mais maintenant, si tu deviens vraiment accroché, puis que tu commences à jouer, puis que c'est au détriment du budget familial, ce n'est pas la solution non plus. Mais moi, je te propose une autre chose. Puisque tu dis, il m'a dit, mais Kurt, ce sera possible que le Seigneur permet que de l'argent vienne, et puis que, j'ai dit oui. Mais prie avec ta femme pour que Dieu te donne les... Combien de chiffres c'est? 6, 7 environ? Alors, je fais toujours ce truc pour voir qui joue à la loterie. Voilà. Et donc, prie pour que Dieu te donne les 6 chiffres justes. Et puis, s'il a ses plans, il peut le faire. Et tu mets, je ne sais pas, qu'il y a le minimum 1 euro ou 5 euros, peu importe, tu mets le minimum, puis tu ramasses le pactole et ben, tu investis. Mais là, il faut avoir un cœur vraiment sincère pour donner plus loin. Parce que quand les 100 millions arrivent, c'est la tentation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore, chers amis, c'est possible. Il faudra peut-être, Lise, qu'on prie une fois dans ce sens. Je pense à ça maintenant. Mais oui, mais tout, vous savez, de toute façon, quand vous avez un cœur sincère, vous dites « Papa », mais vous prenez un engagement et mettez-le sur papier et vous dites « Si je gagne, je le mets dans le royaume de mes deux. » Vous devez avoir un projet. Ne pas « Oui, je... » Non, il faut avoir un projet clair et net et précis. C'est aussi quand on monte une entreprise. Il faut avoir un projet clair, ce que je veux. Exactement ce que... C'est le business plan. Et puis après, on peut s'y attendre à ce que Dieu répond et puis qu'il joue le jeu. Mais quand on n'a pas, de but précis, mais pour Dieu c'est difficile. Il va se dire, mais il veut quoi exactement? C'est très important. On dit que l'argent ne doit pas être un sujet pour les enfants, c'est l'affaire des parents, mais dans la Bible, on enseigne, déjà dans Deutéronome, que nous devons éduquer nos enfants pour qu'ils deviennent des gérants fidèles et compétents. Donc, c'est aussi bien avec l'argent de faire 3 caisses. Une est pour épargner, une est pour dépenser et une est pour la dîme, 10%. Ça, il existe des boîtes... déjà fabriqué avec ces 3 trucs. Comme j'ai dit hier, devenir riche, c'est d'autres doivent le financer. C'est toujours comme ça dans le monde, mais Dieu, dans le royaume de Dieu, peut donner à chacun librement sans faire perdre à quelqu'un d'autre. C'est quand même énorme. Ici, là, toujours quelqu'un doit payer. Toujours. Beaucoup doivent payer pour peu qui s'enrichissent. Tandis que là, Dieu peut enrichir tout le monde sans que ce soit au détriment de quelqu'un d'autre. Par 3, la Bible, l'argent et moi, application pratique. L'argent, c'est quoi? Il nous procure des ailes et nous met en chaîne. Il est la mesure de toutes choses et ne vaut pas la peine d'en parler. Nous l'économisons à outrance et le jetons par la fenêtre. J'ai eu cette inspiration hier. Ou avant-hier. Mais c'est vrai. Nous jetons par la fenêtre. Nous l'adorons et le maudissons. Avec de l'argent, tout devient possible. Si vous voyez des fautes, je suis preneur. Nous l'avons dans notre main. Que vaut l'argent et quel prix sommes-nous d'accord de payer? Est-il distribué d'une façon équitable? Combien avons-nous en besoin pour être heureux? Est-ce l'argent qui tient le monde dans ses griffes? C'est ça, non? C'est un peu poétique. Suivre l'argent. Si tu as de l'argent, tu suivras tes désirs. Et si tu n'en as pas, tu suivras tes besoins. Ça aussi, c'est une vérité. Ensuite, il est dit qu'aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Vous voyez, vous ne pouvez servir Dieu et maman. J'ai dit hier, c'est intéressant que Jésus compare Dieu avec maman et non pas avec le diable qui est quand même le numéro un. Mais il ne s'est pas trompé parce qu'il savait que c'était un ennemi redoutable qui vient en costume cravate et qui te fait croire que tu dépends de lui. Ici, il y avait l'homme riche qui a dit « Je vais construire encore des greniers et puis ensuite, je dirai « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Mais pourquoi? Pourquoi Dieu lui a repris l'âme? Pourquoi?
Parce qu'il a travaillé pour lui-même.
Égoïstement, pour lui-même, il voulait s'enrichir et dire le reste, j'en ai rien à cirer. Pour moi, l'affaire est classée. Dieu l'aurait laissé en vie s'il avait construit trois fois le nombre de greniers qu'il a construit pour faire des réserves pour aider les pauvres, les nécessiteux. C'est uniquement ça. Et ça, c'est de nouveau, vous comprenez, dans les milieux chrétiens, après, on dit, il ne faut pas être riche, c'est trop risqué. Lui, il a perdu sa vie. Mais c'est dommage. Et l'ennemi l'utilise pour te dire, il vaut mieux être petit et fauché, tu prends moins de risques. Et moi, j'ai dit, il vaut mieux être un peu prospère, c'est plus sympa et plus rigolo. Et aussi plus confortable. J'ai dit hier, vous savez, moi des fois je dérange avec ça, mais c'est pas méchant. Mais je sais que je fais danser les esprits religieux. Je les fais sauter. Hier j'ai dit, quand Dieu m'a dit de rouler avec lui, je me souviens très bien, il a dit ferme la boutique, je l'ai fait, et après j'ai dit mais que ce soit clair. Jamais je vais rouler avec une vieille bagnole pourrie où c'est encore le poisson derrière qui tient toute la carrosserie ensemble. Et il m'a dit, j'ai pas demandé ça. Et j'étais habitué au grand confort. J'avais acheté toute la série BMW jusqu'aux 12 cylindres, etc. Puis j'ai dit, maintenant, puisque je suis chrétien, est-ce que je dois maintenant devenir, puis rouler avec... Il a dit, non. Non. Mm-mm. Donc, tout est possible avec Dieu. Tout est possible. On peut toujours lui demander, puis s'il trouve que c'est bien pour toi, il te donnera. Quel était le problème de cet agriculteur prospère? Pourquoi Dieu condamnait-il ses plantes? Tu as répondu. Tu Hatch. Mr. Hatch a donné la réponse. C'est parce qu'il voulait égoïstement l'utiliser pour lui et non pas en pensant aux autres. Ensuite, la fidélité. Pourquoi ce verset est important? Parce que nous devons être honnêtes ici donc. Et puis aussi être capables de gérer les richesses injustes afin que... Du monde, parce que les richesses du monde sont injustes. Déjà, la monnaie que nous avons est injuste. C'est de la fausse monnaie. Je vais parler de ça à Wingen. Là, je démontre l'endettement, puis comment la monnaie a été créée, et puis dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Et quelles sont les solutions? Parce qu'on entend pas mal dans le monde des gens, voyez maintenant les problèmes, mais ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Ils rendent attentifs qu'il y aura, mais Dieu a des solutions. Mais ça, c'est uniquement possible avec, quand on connaît Dieu et puis la Bible. Nul ne peut servir deux maîtres. Quelle influence a la gestion de l'argent sur ta relation avec Dieu? Dieu est propriétaire de tout. Le psaume 24, verset 1 le dit, Deutéronome le dit, et il y en a plusieurs passages qui disent que le Seigneur est, donc la part de Dieu est le propriétaire. Ça, ce sera dans le classeur que vous allez recevoir aujourd'hui. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Et la part de l'homme, c'est nous qui devons faire, et puis si tu... Et il y a des gens qui veulent déléguer à Dieu sans faire leur part, j'ai dit, attends. D'abord toi, et ensuite Dieu intervient. Nous devons faire ce que nous pouvons, et puis ensuite Dieu fait ce que nous ne sommes pas capables de faire, et puis c'est lui qui intervient. Mais il ne faut pas lui sous-traiter nos problèmes à lui que nous pouvons régler nous-mêmes. Que disent ces versets sur nos propriétés et sur nous en tant que propriétaires? Quelle est ta relation avec les biens? Es-tu conscient que Dieu est le propriétaire de tout? Est-ce difficile pour toi de reconnaître Dieu comme le vrai propriétaire? Quelles sont les conséquences pour toi? J'avance parce que vous pouvez ensuite regarder ça à la maison, puis dans les petits groupes, et vous discutez. Parce que maintenant, on n'arrivera pas avec 162 slides. Je veux juste vous donner un outil qui est puissant, qui vous permet de plonger en profondeur en relation avec les finances et puis la relation avec Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et souvent, on n'entend que ce verset-là, mais ça, c'est aussi très important, où on a un appel clair et net de ne pas s'inquiéter. Moi, je me suis inquiété quand j'ai dû fermer la boutique. Ouh là là, j'ai mal dormi. Ouf. Je me suis dit, comment va-t-on faire? On a pris des engagements pour 20 000 francs suisses par mois avec un entrepreneur conformé qui nous coûtait 6500 francs, avec on soutenait ici avec 1000, là avec 1000, ici et là, et on arrivait à 20 000 puisque je l'ai gagné facilement. Et là maintenant, c'est fini. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment vas-tu faire? Il m'a dit, tu ne crois pas que je suis capable? Et j'ai dit, oh là là. Et puis c'était du jour au lendemain, c'était fini, je vous ai raconté ça hier. Et là, j'étais marié avec Lise, j'ai dit, oh là là. Puis elle n'a jamais... Elle a eu des soucis. J'ai dit, tu dors bien? Elle a dit, oui. J'ai dit, mais ça, je vois quand moi je suis réveillé, je vois que tu dors profondément. Elle a imprimé les versets comme celui-là, puis aussi en vérité, je vous le dis, si j'ai nourri les oiseaux du ciel, combien? Elle m'a lu ça le matin. Je pensais qu'elle allait peut-être me caresser un peu. Pauvre Courta, mal dormi. Non, non. Elle était vraiment dure avec moi. Elle a simplement lu les versets bibliques. Puis moi, j'étais là. Et puis j'ai écouté. Elle avait imprimé. Et encore, et encore. Et un matin, c'était en hiver, je voyais sur des meubles dehors, sur la terrasse, un moineau avec un gros morceau de pain qui m'a regardé plein dans les yeux. Et j'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit, je te demande pardon. Là, c'était clair et net. Et puis j'ai dit, mais quand même, maintenant, on a besoin de 20 000 francs. Et je reçois un téléphone d'un homme d'affaires chrétien qui dit, est-ce que je pourrais passer chez moi? J'ai un projet immobilier, j'ai besoin d'un conseil. Je vais chez lui. Et puis il m'a dit, voilà, c'est une affaire importante. Il a dit, j'aimerais faire ceci et cela et cela. Puis j'ai prié en roulant. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je n'ai pas beaucoup de temps, puisque je travaille maintenant avec toi dans un autre domaine, mais là, dans l'immobilier, les 10%, il faut un bon conseil. Et j'ai dit, écoute, moi, je ferais complètement autrement. Ah bon? J'ai dit, je ferais complètement autrement. Moi, je ferais ça et ça et ça. Et puis avec le résultat, ça et ça et ça. Mais la séance a duré 15 minutes, demi-heure. Mais il dit, hé, waouh, Kurt, ça, c'est la bonne idée. Est-ce que tu es d'accord de prendre le mandat pour cette affaire? J'ai dit oui, volontiers. Il a dit, alors, tout d'abord, tu me factures tout de suite 40 000 francs pour ces bons conseils. Ça fait j'ai 2 mois de besoin. Ensuite, je te confie le pilotage sur les 4-5 ans. Je te paye 500 000 en plus. Yes! Et on pouvait enseigner dans le monde entier et puis on n'avait plus de soucis. Bon, je devais travailler un peu, mais ce n'était pas beaucoup. Surtout avec de la connaissance. Donc, Dieu utilisait... Vous savez, quand je dis ça, je sais qu'après, les gens ont un problème. Mais vous ne devez pas avoir un problème. C'est de la vérité que je raconte. Parce que ça nous a permis de vivre plusieurs années. On ne les a pas claqués avec du caviar. On avait avec ces 500 000, ça a duré, je crois, sur 7 ans. Mais ça nous a payé qu'on pouvait enseigner aussi en Afrique, à Madagascar, etc. On n'a jamais été payé pour l'enseignement. On facture en général le déplacement. Et en Europe, on essaye peut-être un petit montant, mais qui ne payera jamais le travail qu'on fait. Pas se préparer des documents comme ça, c'est des douzaines d'heures. Alors voilà, juste pour vous dire... Ensuite, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Vous voyez, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux. Par ma grande puissance et par mon bras. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Donc ici, on voit qu'il n'a pas donné au diable, c'est l'homme qui a donné la gérance au diable. Mais nous, nous pouvons la reprendre si nous marchons avec Dieu. Nous ne sommes plus des hommes déchus. Nous sommes des gérants réinstaurés. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous devons être fidèles. Et là, on voit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et nous devons dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est une responsabilité. Il nous a fait un peu inférieurs. Puis là, il parle de Jésus, mais nous sommes aussi faits à son image. Et puis nous qui sommes avec Jésus, nous pouvons aussi le prendre pour nous, que nous pouvons dominer, mettre l'ennemi sous les pieds, et non pas nous être sous les pieds de Monsieur le Diable. Dieu a confié des responsabilités à l'homme, en es-tu conscient ? Pourquoi Dieu confie des responsabilités à l'homme pour nous préparer pour le royaume à venir? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Qu'est-ce qu'on attend d'un bon gérant? Quels sont les devoirs? Et ici, il donne à un 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1. À chacun selon sa capacité. Là, on voit que Dieu ne donne pas n'importe comment. Parce que s'il te donne 5 talents et tu n'es pas capable de gérer 5 talents, tu vas entrer dans le stress. Et donc, il va te donner un talent, mais tu peux... Avec ce talent, tu peux devenir prospère, de le multiplier, faire deux. Et après, tu peux dire, Seigneur, tu as vu, maintenant, j'ai multiplié, j'en ai fait 2. Est-ce que je pourrais monter plus haut? Et il va, oui, avec bienvenue. Et après, tu peux multiplier à 4. Et donc ici, celui qui avait un talent, il a enterré. Puis le maître, donc Dieu n'était pas enchanté. Il dit, donc... Il vient, et puis celui avec 5 talents dit, « Tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Et Dieu dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Attention, un talent, je crois que voilà, je vais voir ce que c'est un talent. Et puis celui qui a reçu 2, il a aussi fait 2, et puis il dit, « Tu as été fidèle, bien, bon et fidèle, et puis je te confierai beaucoup. » Et celui qui n'avait reçu qu'un talent, il l'a enterré, il a dit, parce que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'es pas vanné, j'ai eu peur et je suis allé cacher. Et il dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne et je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je retirerai ce qui est à moi avec un intérêt. Ici, nous avons l'enseignement sur les intérêts qui, pour moi, est clair et net et juste, selon le serviteur le plus compétent dans le domaine des réformateurs, qui était Jean Calvin. Jean Calvin, lui, il a dit, on a droit à un intérêt dans certains cas, et dans certains cas, on n'a pas droit à un intérêt. On n'a pas droit à un intérêt si tu aides la veuve, qui est dans une situation financière difficile, tu lui fais un prêt et tu demandes un intérêt. Tu n'es pas dans la bonne voie. Mais si tu investis dans une affaire auprès d'un ami, je parle maintenant entre chrétiens, tu peux demander un intérêt ou une participation, parce que cet argent va servir à créer de la richesse. Donc tu as droit, tu prends des risques, mais tu peux aussi avoir du bénéfice. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est actif. Mais quand c'est passif, quand tu aides le faible, ne demandez pas d'intérêt. La Bible interdit dans l'Ancien Testament de l'intérêt, dans la famille, hein, au sein du peuple d'Israël. Mais elle dit, à l'étranger, tu peux demander. Et ici, nous avons, donc, Dieu dit, au moins, tu aurais dû le mettre à la banque, si tu as déjà, tu n'as pas fait la multiplication. Mais ce n'est pas une recommandation de travailler avec les banques, mais c'était plutôt, au moins, hein, il te fallait remettre, puisque tu n'as pas multiplié, tu aurais dû au moins le mettre à la banque pour retirer un intérêt. Juste pour qu'on se comprenne. Et donc, il a enlevé, et il a, comme Dieu a une stratégie de tête, il n'a pas donné ce talent à celui avec deux, en disant, oh, maintenant, je vais t'aider un peu. Comme ça, tu peux aussi grandir. Non, non, il a dit, toi, qui as fait de 5, 10, tiens, vas-y, tu es d'accord? Voilà. T'es obligé, hein? Donc, Dieu est un stratège de tête. Pourquoi? C'est parce que celui qui a fait 10 avec 5, mais il peut l'utiliser comme un instrument de bénédiction. C'est un appel à nous. Toujours avec un cœur orienté vers l'extérieur, non pas s'enrichir égoïstement pour soi-même. Vous savez, dans les temps qui sont devant nous, moi je dis souvent, ça va être dur, mais nous ne devons pas égoïstement pourvoir à nos besoins. Ce n'est pas nous qui, après, avec des cabines avancées, promènent dans la rue et puis les autres sont complètement amaigris. Un talent, là, donc un talent, c'est 31 kilos, c'est 1000 onces de 31 grammes ou 6000 dénars, c'est 6000 salaires de journaliers. Donc c'était quand même un paquet, hein, qu'il a remis. Là, on voit Dieu, c'est pas la petite cuisine, hein. Quel principe reconnu dans les paraboles des gérants, voilà, on en a parlé. Ensuite, quels sont mes besoins? Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, etc. Oh, ça, c'est utilisé pour l'évangile de pauvreté. Oh, oh mon Dieu. Mais j'ai dit, mais oui, restez fauché. Quand quelqu'un dit, mais non, courte, j'ai dit, mais oui, reste fauché, c'est très bien. Mais ce n'est pas les plans de Dieu. Dieu dit simplement que vivre l'humilité, mais aussi vivre l'abondance. Mais moi, je l'ai vécu. Mais Dieu ne voulait pas que je reste en bas. Mais être en bas m'a fait du bien. Oh, ça m'a fait du bien. Gloire à Dieu. J'étais quand même assez gonflé. Pas envers les ouvriers, mais gonflé envers moi-même, puis. Et une certaine arrogance. Ben, je peux tout acheter, tout payer. Pas de problème. Et gloire à Dieu que j'ai dû passer, pas par la famine, mais un peu dans la disette financière. Envies-tu des gens pour leur possession? Aimerais-tu changer de situation avec quelqu'un que tu connais? Mais oui, mais écoutez, des fois, ça arrive. Mon plus petit frère, donc on est 5 frères, moi je suis au milieu, donc le numéro 3. Le numéro 4 a travaillé avec moi, on a monté l'entreprise. Le numéro 5, qui est fiduciaire, est venu nous rejoindre. Mais le 4 et moi, nous étions les propriétaires de la société. Moi, l'actionnaire majoritaire. Et nous avons tout perdu. Et le plus petit, lui, il a créé une nouvelle entreprise. Et il a, dans le domaine du bâtiment à Genève, environ 80 ouvriers. Et on se voit régulièrement, on a un très bon contact. Mais des fois, je l'ai dit à Lise, et puis je le confesse devant l'Éternel, des fois, quand je le vois venir, et il me dit, j'ai dit, t'es bien, Dieter-tu. Il a dit, tu sais, comparé à toi, j'étais petit, mais tu m'as appris. Et puis, après, j'ai dit à Lise, il a de nouveau, il vient de changer de nouveau le dernier modèle de Range Rover, parce que je sors, et j'ai dit, t'as changé. Il a dit, oui. Oui, je l'ai vu, là, il était chez Emile Frey, c'est le nouveau modèle, puis ils l'ont affiché 108 000, alors je dis, ouais, j'achète. Et des fois, j'ai des situations d'envie, de jalousie. Parce que j'ai presque envie de dire, mais moi, je savais beaucoup mieux faire, et maintenant, moi, je voyage pour enseigner. Et puis, au lieu de gagner du pognon à l'appel, parce que dans l'immobilier, quand vous connaissez, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Puis après, je dois prier, mais je le reconnais. C'est le diable qui me tente aussi, qui me dit, Courte, quand tu as ton frère, c'est rigolo à côté de toi, tu pourrais faire beaucoup plus. Puis après, je dois dire, non, je n'accepte pas ça. Et humilié devant le Seigneur, j'ai dit, je te demande pardon si j'ai des pensées comme ça, mais c'est humain. Parce que des fois, je pense à un grand yacht. Parce que j'avais des plans à l'époque. Quand j'avais environ 50 millions, je me suis dit, ça ne suffit pas parce que le yacht va déjà coûter entre 15 et 20 millions. Après, il faut 2 employés. L'entretien, un bon million par an. J'ai dit, non, il faut monter à 100, tout de suite. Le plus vite possible. Puis après, tu es obligé, tu ne peux pas boire du rosé d'Anjou, tu bois du champagne. Puis tu ne fumes pas des stumps à 1 euro la pièce, mais des cohibas. Non, mais tu es d'accord, Claude? Être riche n'est pas une affaire bon marché. Et puis voilà. Vous savez, on peut aussi s'amuser avec Dieu. Est-ce que la richesse est pour toi un but? Ça ne devrait pas. Tu peux utiliser, mais utiliser comme un instrument de bénédiction. Ici, vous voyez Abraham et Lot qui sont devenus riches. Ils sont devenus tellement riches qu'ils ont fini en bagarre. Parce que les bergers se querellaient entre eux parce qu'ils avaient tellement de bétail que se disputaient pour de la place. Et puis Abraham a dit, n'entrons pas dans ce jeu-là. Lot, Seigneur nous a bénis. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et Lot, qui était plutôt un peu un vaurien, il a dit, j'irai là-bas, dans la plaine. Elle est bien irrigée. Elle est comme le jardin de l'Éternel. Et c'était Sodome et Gomorre. Et puis à Abraham, il restait les cailloux de l'autre côté. Mais c'est lui qui a libéré Lot quand il était emprisonné. Et c'est lui qui a ramassé le butin, et c'est lui qui a donné la dîme à Melchisédek. Le contentement, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y en a malheureusement beaucoup de gens qui commencent à entrer dans une relation avec Dieu et puis ensuite ils quittent. Étouffés par les soucis. Celui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Puis Jésus, il avait une façon de répondre qui me plaît. D'ailleurs, il fait ça aussi avec moi. Quand je pose une question, il pose une contre-question. Et puis quand vous enseignez, essayez de travailler avec des questions. Parce que vous forcez les gens à réfléchir. Et puis Jésus dit, « Pourquoi tu m'appelles bon maître ? Personne n'est bon. » Il n'y a de bon que Dieu, seul. Et puis après, il lui dit, vends tout et suis-moi. Est-ce que c'est ce que nous devons faire, nous aussi? Pourquoi Dieu lui a dit, vends tout? Il était tellement sous l'emprise de Mammon que Jésus a vu que cet homme pourrait être complètement coupé de cette emprise. Il n'y a qu'une seule façon, c'est de tout vendre. Et c'est ce qu'il a fait avec moi, chers amis. Il a fait ça avec moi. Et ça, ben je peux vous dire, c'était brutal. C'était brutal. Mais il a fait ça avec moi. Puis voilà, j'ai donc obéi, mais j'ai obéi parce que j'avais une femme avec laquelle je pouvais prier. Et puis c'est encore une fois, quand on est marié, c'est dans le couple, quand on n'est pas marié, on doit avoir un ami ou une amie. Et puis c'est là qu'on prie ensemble et c'est là que Dieu peut vraiment parler. Vraiment parler pour que vous soyez sûrs. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, etc. Rappelons-nous des biographies de Joseph, Job, David ou Paul. Pourquoi Dieu les a-t-il exposés à de grandes détresses? Vous n'avez jamais aucun serviteur qui n'a pas fait haut et bas et haut et bas. Alors, Joseph, il monte parce qu'il a reçu ce beau vêtement de son papa. Il frime devant les frères. Il finit dans un puits. Il est vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Il devient le serviteur principal dans la maison de Potiphar. Il est en haut. Il est très riche, Potiphar, il ne couche pas avec madame, il finit en prison, il est en bas. Il reste fidèle et puis il devient premier ministre d'Égypte. Voilà. Mais en tant que chrétien, tu ne dois jamais rester toujours en bas, mais il y en a qui sont toujours en bas. Et le problème est chez eux et non pas chez Dieu. Quelqu'un qui est toujours en bas, le problème est toujours, 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 sans exception, chez lui. Moi, j'en ai eu des cas. On m'a apporté, je me souviens, de l'Alsace. Oui, de l'Alsace, on m'a apporté un cas, Raymond. Un ami enseignant dans les domaines des finances en Suisse m'a dit, Kurt, j'ai un cas désespéré en France. Et j'ai dit, écoute, moi, j'ai assez de cas déjà en Suisse, là. Il m'a dit, non, mais il est vraiment désespéré. J'ai dit, comment désespéré? Il a dit, écoutez, il a été partout. Il a été là et là et là et là, et aussi chez moi, il me disait, donc chez lui. Et j'ai dit, et puis il a dit, aucun résultat. Ah, mais j'ai dit, oh, envoie-le. Les deux sont venus, et puis j'ai écouté, et puis j'ai dit, écoutez, vous devrez absolument connaître l'enseignement biblique sur les finances. On a prochainement un séminaire finance sur 6 jours dans un hôtel. Ça coûte 1 000 francs par personne. Vous devez participer. » Ils ont dit, « On aimerait bien, mais on n'a pas l'argent. » J'ai dit, « L'argent n'est pas le problème. Est-ce que vous êtes libre, vous venez ?» Ils ont dit, « Oui, on peut venir. » J'ai dit, « Combien vous pouvez payer ? Mettez-le dans la prière. » Ils m'ont dit, « 40 euros pour les deux. » J'ai dit, « OK. » J'ai dit, « On fait comme ça. Si c'est du succès, vous remboursez le reste. » Parce que nous ne pouvons pas financer tout le monde. Et puis, si n'a pas de succès, mais vous suivez, hein ? Ils ont dit, « Oui. » J'ai dit, « S'il n'y a pas de succès, dans ce cas, vous ne devez rien. » Tout a été remboursé environ 6 mois plus tard. Ils sont dans une situation maintenant de prospérité qu'ils n'ont jamais connue. Ils n'étaient pas loin du divorce. Et depuis, ils sont dans une situation de prospérité. Tout est possible avec Dieu. Il faut juste connaître Dieu et connaître le sujet. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc Dieu nous forge à travers des problèmes qui vont nous rendre plus forts si nous travaillons avec lui. Ça veut dire que les problèmes vont aider à devenir plus forts. Et c'est uniquement les problèmes. Ce n'est pas la vie facile sans problème qui va vous faire grandir. Vous pouvez oublier. Vous pouvez oublier. Donc, toute épreuve est une bénédiction parce qu'elle va vous aider à grandir. Et c'est pour ça, dans Psaume 51:19, il est dit, « Un sacrifice agréable à Dieu est un cœur brisé et un esprit contrit. » Parce que Dieu sait très bien qu'avec ça, nous allons le chercher ou d'autres vont simplement périr ou se suicider. Mais si tu le cherches, tu vas sortir nettement plus fort de cette épreuve. Et c'est aussi, vous savez, à l'époque, quand j'étais vraiment dans des difficultés, j'ai dit, Seigneur, comment fait-on? Vraiment, j'ai beaucoup de charges sur les épaules. Est-ce que, je ne sais pas, comment on fait? Est-ce qu'il y a une possibilité d'un transporteur ou quelqu'un qui pourrait m'aider? Et puis quelqu'un m'a dit, mais Dieu va t'aider à porter le sac. J'ai dit, ça veut dire qu'il va marcher derrière et puis avec la main, soutenir, aider, porter le sac à dos. J'ai dit, je ne crois pas tellement. Et j'ai demandé à Dieu et il m'a dit, non, je vais te fortifier tes épaules. Ah, mais ça, c'est une différence. Chers amis, quand tu as des épaules, pour porter du poids, peut-être le poids le plus lourd dans une situation de ta vie, mais ce poids ne va pas rester éternellement parce que tu vas réussir à te débarrasser, mais tu auras les épaules renforcées et les prochaines épreuves vont être de la rigolade à côté de ce que tu as appris puisque tu as fortifié tes épaules spirituelles. Le cercle financier, c'est la quintessence de cette formation que vous allez faire où vous aurez des obligations comme loyer, assurance, impôt, remboursement de dette, tout ce que vous avez souscrit. Dans le livre de Earl Pitts, la dîme est en première place. Moi, je le mets en dernière ici. Pourquoi ? C'est parce qu'Earl n'a jamais été dans un endettement. C'est le seul point où je ne suis pas d'accord avec lui, mais on n'a pas un problème avec ça. Parce que moi, je dis, il y a des gens qui viennent chez nous, qui payent la dîme et qui ne remboursent pas la dette. Donc, qui doivent de l'argent à quelqu'un d'autre, mais qui payent la dîme. Et j'ai dit, non, mais attends. J'ai dit, moi, je te dis, Dieu n'a pas besoin de l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire très nuancé. C'est bien de payer la dîme, même quand on est dans l'endettement. Je l'avais aussi fait. Mais il faut faire un budget. Et après, voir combien je peux payer avec la dîme. Et peut-être, ça commence avec 1 ou 2% ou 3%. Mais tout d'un coup, ça monte et monte et monte. Mais c'est bien de donner. Mais ne commencez pas brutalement à dire, je donne 10% puis vous ne remboursez pas la dette. Ce n'est pas la bonne solution. Il faut utiliser la matière grise, hein. Ensuite, vous avez les nécessités, nourriture, vêtements, argent de poche. Dieu pourvoit assez d'eux. Et ensuite, vous avez les désirs. Les désirs, Dieu ne répond pas à tous les désirs, mais vous pouvez les formuler. Moi, j'ai aussi des désirs et je ne me gêne pas. Je monte souvent l'escalier, j'ai dit coucou. Courte est de nouveau là. J'ai dit, t'es là, papa? J'ai dit, t'as vu, l'autre jour, on était au Danemark. Puis un garage Maserati, j'ai dit, on va aller voir. Puis il y avait la nouvelle Jeep, la Levante. J'ai dit, je peux? Il a dit, oui, j'ai dit, vous pouvez la prendre. J'ai dit, Lise, maintenant. Et puis j'ai fait hurler le truc là, un peu sur les routes. 450 chevaux, ça m'a fait plaisir. Mais oui, mais vous pouvez avoir des plaisirs. Mais si je ne la reçois pas, je n'ai pas un problème. Mais ce sera quand même sympa, voyez, de venir donner des séminaires finance avec une Maserati, vous devenez crédible. ou peut-être vous aurez des problèmes, surtout en France. Alors vous la parquez un peu plus loin. Vous venez, vous avez un petit chariot, vous dites, on vient d'arriver en vélo ou en train. Alors, voyez, on arrive, on fait à 12h30. Hein. Ici, vous avez la part 3. Donc, voyez, on a fait 1 et 2. Maintenant, donner et pourvoir. Le contentement. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Alors là, c'est très clair. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que ce n'est pas un Dieu du juste assez, c'est un Dieu de plus qu'assez. C'est un Dieu qui veut vous faire entrer dans le pays de l'abondance et non pas garder dans le pays du juste assez, afin que vous puissiez être utilisé comme un instrument de bénédiction. Avec quelle motivation donnes-tu? Mais justement, la dîme, comme j'ai fait ce que tu donnes avec un, sans t'attendre à un retour. Non, comme j'ai dit, attendez un retour, mais un retour pour glorifier Dieu. Te dire, papa, j'ai appris ce matin, quand je donne la dîme, c'est comme une récolte, comme une semence, donc je peux aussi m'attendre à une récolte. Et tu dis même que c'est en abondance que tu... Voyez, vous avez vu? C'est en abondance que tu vas me bénir. Et je vais pouvoir utiliser de nouveau pour être un instrument de bénédiction pour d'autres. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Ben, je crois qu'on a tous un peu de réserve. De ne pas manger, ça va très bien, puis on reçoit mieux. Je ne vois vraiment pas quelqu'un qui est complètement amaigri. Tu as une balance. Autrement, on va mesurer, puis balance, dit ça va, 75 kilos, tu restes. 48 kilos, infusion. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Quand c'est marqué l'Éternel des armées, c'est sérieux. L'Éternel des armées parle. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, et puis le témoignage, et après la pause, quand mes sociétés étaient vendues, j'étais sans travail. Et puis j'étais tellement crevé avec tout ce que j'ai vécu à la maison, avec les banques, dans l'entreprise, etc., que j'ai dit au Seigneur, oh, on est fin août, moi j'aimerais septembre, octobre, novembre, décembre, j'aimerais 4 mois de congé. Est-ce que papa, on peut trouver une solution que pendant 4 mois, je ne travaille pas, mais je vais me former avec la Bible à l'appui pour ce ministère que maintenant je fais. Et puis il a dit oui. Et j'ai dit, maintenant, papa, à l'époque, j'ai diminué mon salaire de 25 000 par mois, que de toute façon, je ne touchais pas, je laissais sur le compte bancaire, parce que je vivais avec les bénéfices, largement les bénéfices de l'immobilier et compagnie. J'ai baissé à 14 500 francs, puisque c'était un peu la crise, pas moi. Et je lui ai dit, écoute, avec 14 500, ça correspond à mon cercle, parce que vous savez, j'avais la vie, j'avais un jardinier, puis etc., une employée de maison, donc c'était les besoins. Et j'ai dit, est-ce que tu serais d'accord de pourvoir à 14 500 francs, mais je ne vais pas m'inscrire au chômage, parce que le chômage est limité à 6 800 francs à l'époque. Donc ça ne sert à rien, alors ça veut dire où ça passe, où ça casse. Donc la totale. Parce qu'avec Dieu, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas faire moitié-moitié. Il faut miser sur lui ou pas miser sur lui. J'ai dit donc, je mise totalement sur toi. Mais je te demande, est-ce que tu es d'accord de pourvoir à 14 500 par mois sans que je travaille et sans que j'aille au chômage. C'est une folie totale. Et puis j'ai dit, puis il faut me le... J'ai besoin d'une confirmation. Je l'ai partagé dans une cellule de prière. La vie a aussi un colonel de l'armée du salut qui dit, oh là là, 14 500, c'est un peu beaucoup. Mais je dis, mais attends, je dis, Dieu est riche, non? Il dit, oui, mais quand même. Et puis j'ai vu que mes frères avaient de la peine. Et puis j'ai dit, Seigneur, il faut que tu travailles directement avec moi parce que ça les dépasse manifestement. J'ai dit, merci de me donner un passage. Et je ne sais plus comment... Je suis tombé sur Malachie 3.10. Voilà, en tout cas, j'ai reçu ce passage. Et j'ai dit, mais attends, ça c'est intéressant. Tu dis, apporter à la maison de trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait des réserves, et ensuite, mets-moi de la sorte à l'épreuve, et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur toi la bénédiction d'abondance. J'ai dit, c'est parfaitement, ça c'est parfait pour moi, papa, c'est exactement ce qui me convient. Je dis, on fait le deal, je paye la dîme et tu envoies la marchandise. Maintenant, je ne vous recommande pas de faire la même chose. Parce que attention, Dieu ne fonctionne pas toujours de la même façon. Hein. Mais mon cœur était sincère, je dis, papa, je veux te tester. Ici, il dit, testez-moi, mettez-moi à l'épreuve, j'ai besoin. Je dis, je suis dans une telle misère, je dois connaître si j'ai un grand Dieu ou non. Amen. Amen, papa. J'ai payé, le mois de septembre, j'ai payé la dîme 1450 francs. Quelqu'un me demande, est-ce que c'est le montant brut ou net du salaire? Je dis, ça dépend si tu veux une bénédiction brute ou nette. Est arrivé le mois d'octobre. J'ai de nouveau payé la dîme, mais rien n'est entré. Mais c'est logique, vous voyez, dans le monde, j'avais plus de travail, je n'étais pas au chômage. Comment voulez-vous recevoir du pognon? Mais dans le royaume de Dieu, j'avais la promesse. Arrive le mois de novembre, mais les réserves diminuent. Et je n'ai pas payé la dîme. J'avoue, manque de... lamentable, honteux. J'ai encore honte aujourd'hui. Arrive le mois de décembre... environ le 22, j'ai les factures et j'ai dit, Seigneur, là maintenant c'est une belle salade. Il n'y a bientôt plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis il a dit, où est ta foi? J'ai dit, oui, c'est vrai. Il a dit, et puis, j'ai dit, mais tu as, après j'ai commencé à me lamenter. Mais tu vois, Seigneur, j'ai joué le mois de septembre et octobre. Puis il n'y a rien. Il m'a dit, mais qui a fait le deal avec moi? C'était ton idée ou la mienne? Et j'ai dit, c'était mon idée. Mais j'ai dit, mais tu as quand même confirmé, Seigneur. Il a dit, oui. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait, après c'est l'entrepreneur, l'homme d'affaires, j'ai dit, est-ce que papa, on peut faire un compromis? Est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, que je paye le mois de novembre et tu laisses tomber décembre, tu sais, il est cadeau. Il a dit, où est ta foi? J'avais déjà rempli un bulletin de versement de 1450 pour le mois de novembre. J'ai déchiré, j'ai mis 2009, j'ai couru à la poste, j'ai payé et mal dormi. La nuit, le diable m'a parlé, il m'a dit, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, il y a déjà des religions qui m'ont dit la même chose. Ça ne fonctionne pas comme ça, Kurt. Dieu n'est pas un tirelire, tu ne peux pas lui dire, je donne ça, puis tu donnes en retour. Puis après, j'ai dit, Seigneur, ça, ce n'est pas toi qui parles, c'est tellement négatif. Le Saint-Esprit est positif, qu'est-ce que tu dis? Un silence, et après, téléphone demain à Post-Finance, parce que je travaille avec la Post-Finance, la banque. Bon, j'étais le premier client à 8 heures. J'ai dit, madame, voilà, j'ai un compte, etc., voilà le code et tout. Ce que vous pourriez voir, donc j'attendais 4 mois à 14 500 francs, c'est aussi sur le DVD et dans le livre. J'attends 14 500 francs par mois. Est-ce qu'il y a environ 60 000 francs qui sont arrivés? Elle a dit, petite, elle a dit 72 500. J'ai dit non. Elle a dit oui. J'ai dit, j'appelle K-U-R-T, Kurt Bühlmann, B-U. Elle a dit oui, maintenant j'ai compris. J'ai dit, mais vous, et puis mon compte, c'est 17. Il a dit oui, c'est vous, monsieur Bühlmann. J'ai dit, puis ça vient d'où? Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais vous êtes sûr? Elle a dit oui, je suis sûr. J'ai dit, 72 500? Elle a dit oui. Et ça ne va pas, monsieur? J'ai dit, si, de mieux en mieux. J'ai dit, papa, 72 500 divisé par 14 500, mais tu m'as versé 5 mois. Il m'a dit, je paye aussi le 13e. Pourquoi je vis des trucs comme ça? Et pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu pas? Il a de l'humour en plus. J'ai appris plus tard qu'un homme riche qui était impliqué dans cette société qui m'avait racheté a versé sans avoir eu l'obligation. Il n'avait pas l'obligation, mais il avait appris par quelqu'un que je ne travaillais plus, et puis là, il a versé 5 salaires. Et maintenant, fais la pause, que son nom soit glorifié. Amen. Bon appétit.
Juste un petit message. Merci Kurt déjà pour cette matinée. On va faire une pause d'une heure. C'est peut-être long pour certains, court pour d'autres. Mais en fait, c'est pour privilégier vraiment le temps d'enseignement qu'on va avoir cet après-midi. C'est pour pas trop mettre dans le ventre, pour être aussi en forme cet après-midi, d'accord ? Donc allez courir si vous avez mangé bien compact. Non, c'est vraiment de se mettre dans les meilleures conditions pour encore recevoir. Je crois que c'est vraiment un privilège. Est-ce qu'on pourrait applaudir juste pour ce matin encore Dieu pour tout ce qu'il nous a donné? Seigneur, merci. Et merci Kurt, on a encore hâte de recevoir. Et puis, il y a des belles choses qui arrivent. Mais on va prendre un temps pour s'y connecter les uns les autres, apprendre à se connaître pour les nouvelles personnes. Merci d'être venu. Et puis, voilà, prenez des forces, venez restaurer. Et puis, on redémarre, si vous le voulez bien, à 13h. Il est quelle heure là? Il est 1h moins quart, à 2h moins quart, ok? À moins 20, on est assis et à moins 15, on repart. Ça marche pour vous? Merci beaucoup.